Vous êtes sur RTL.
C'est l'heure de céder la place à Yves Calvi. Bonjour Yves.
Merci Julien. À demain 4h30.
À demain 4h30.
Bonjour à tous. Allez, commençons par les bonnes nouvelles. Les prévisions de croissance de la Banque de France, plus 5,5%. Elles nous seront confirmées à 8h20 par son gouverneur, François Villeroy de Galhau. Il nous donnera les tenants et les aboutissants de ce formidable espoir, en fait, pour l'économie française. Qu'en est-il de l'emploi et de notre épargne? Je lui poserai la question. L'autre invité de notre matinale est ce matin la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Elle sera interrogée par Alba Ventura à 7h40. À quand le retour dans les salles de spectacle? Les salles de cinéma doivent-elles rester fermées? Qu'a-t-elle pensé de la soirée des Césars? Celle qui fut ministre de la Santé réagira aussi à la crise européenne avec le vaccin AstraZeneca. Et je vous annonce enfin à 7h15 une brigade d'actualité consacrée à AstraZeneca. Rappelons un principe assez simple. Aujourd'hui, on meurt du Covid mais pas du vaccin. Nous y reviendrons avec Virginie Garin et le directeur médical de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, Benjamin Davido. Nous sommes le mardi 16 mars 2021. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
On commence avec la suspension provisoire de l'AstraZeneca qui vient chambouler ce matin toute la campagne de vaccination.
Aucun élément ne confirme pourtant le lien entre ce vaccin et les effets secondaires. De nombreux médecins craignent que le doute instillé ne vienne désormais saper la confiance. Où est passée Delphine Jubilard? Il y a 3 mois disparaissait cette jeune infirmière du Tarn. Depuis, quelques indices, beaucoup de soupçons, mais un mystère qui reste entier. Tabassée et torturée parce que jugée trop mou au sein de cette bande à Créteil, les plus âgés ont décidé de punir les plus jeunes. On va vous raconter cette histoire. Dans ce journal également, le retour de la prime Macron, l'occupation des théâtres, le mouvement prend de l'ampleur et puis la fierté d'un petit village alsacien qui vient d'offrir 2 chaînes remarquables pour aider à rebâtir Notre-Dame.
La politique, Olivier Bost.
Et quand les politiques paniquent, eh bien ça donne la suspension de l'AstraZeneca.
Dès la fin du journal.
RTL Matin.
Hier matin encore, Jean Castex appelait les Français à garder confiance et même à se faire vacciner avec l'AstraZeneca. Quelques heures plus tard, le chef de l'État décidait la suspension provisoire du vaccin anglais par mesure de précaution. Sauf qu'entre-temps, Rémi, lui, a reçu la piqûre. Et cette annonce le laisse un peu dubitatif.
Première dose aujourd'hui à 15h. Pour le moment, aucun effet secondaire déclaré. J'ai juste pris un Doliprane avant d'y aller. Et à 16h30, on apprend que le président de la République a donc suspendu la vaccination avec AstraZeneca. Bon, pourquoi? Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de panique pour pas grand-chose. J'ai ma maman qui a été vaccinée il y a déjà quelques temps, le personnel soignant. Mon frère également a été vacciné, ma belle-sœur a été vaccinée. Enfin, je connais beaucoup de monde qui a été vacciné. J'ai des collègues au travail qui ont été vaccinés également ce week-end. Pour le moment, tout le monde est très content et personne n'a déclaré quoi que ce soit d'anormal suite à l'injection.
Rémi, tout juste vacciné au micro de Samuel Goldschmidt. La suspension est donc active jusqu'à jeudi. L'Agence européenne du médicament donnera alors son avis, même si dès hier soir, elle laissait entendre qu'aucun lien formel n'a pour l'instant été établi entre la trentaine de cas de thrombose constatés et les millions d'injections effectuées. Partons, si vous le voulez bien, au Royaume-Uni. C'est là-bas qu'a été inventée l'AstraZeneca et on vaccine avec à tour de bras depuis le mois de décembre. Bonjour Marie Billon.
Bonjour Dominique.
Ce principe de précaution invoqué par l'Europe, comment est-il perçu chez vous ?
Mais c'est la surprise et puis on peut dire la consternation chez les scientifiques britanniques. Ils ne comprennent pas pourquoi les pays européens se copient les uns les autres plutôt que d'écouter les scientifiques de l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, qui a dit qu'il n'y avait aucun lien établi entre le vaccin d'Oxford AstraZeneca et des troubles de la coagulation. Certains spécialistes trouvent même scandaleux que les dirigeants européens mettent leur population en danger alors que l'épidémie remonte chez eux. Certains britanniques se demandent si cette remise en cause du vaccin anglais, comme on l'appelle ici, n'est pas une sorte de vengeance post-Brexit ou bien de la rancœur face aux problèmes d'approvisionnement en vaccins en Europe.
On rappelle les chiffres, hein, Marie, 24 millions de vaccinés chez vous, la moitié quasiment avec AstraZeneca et pour l'instant pas ou très peu d'effets secondaires.
Écoutez, l'agence du médicament britannique a fait savoir qu'il n'y a pas plus de troubles de la circulation sanguine en ce moment qu'en temps normal. Le premier ministre britannique a écrit un éditorial pour le journal The Times d'aujourd'hui où il redit que le vaccin est sûr et fonctionne extrêmement bien. La stratégie vaccinale ne change donc pas et les Britanniques continuent même à avoir une petite préférence pour le vaccin anglais.
Merci Marie Billon.
Nous revenons sur la suspension provisoire de l'AstraZeneca. Dans quelques minutes avec la brigade RTL et Virginie Garin, il sera 7h15.
Et c'est dans ce contexte bien peu réjouissant que le Premier ministre a tenté hier de se projeter sur l'après-Covid, Jean Castex a tenu une conférence sociale avec le patronat et les syndicats et il a notamment annoncé pour la troisième année consécutive le retour de la fameuse prime Macron.
Le gouvernement a décidé d'autoriser à nouveau le versement en 2021 d'une prime de 1000 euros défiscalisée et exonéré de cotisations sociales, plus communément connue sous l'appellation de prime Macron. Si les travailleurs de la deuxième ligne devront en être les bénéficiaires privilégiés, cette prime sera ouverte à tous les salariés.
Jean Castex, hier lors de la conférence sociale. Elles sont désormais près de 50 salles de théâtre et de spectacles à être occupées à travers le pays. Le mouvement qui a débuté le 4 mars dernier au Théâtre de l'Odéon à Paris se propage. L'Opéra de Lyon, le Grand Théâtre de Bordeaux, les intermittents soutenus par la CGT Spectacle réclament la réouverture des lieux culturels et le retrait du projet d'assurance chômage les concernant. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, sera tout à l'heure l'invitée d'Alba Ventura. Cindy, 27 ans, a une question pour elle. Elle occupe depuis quelques jours le Théâtre National de Strasbourg.
Si elle avait été à notre place, étudiante, intermittente, s'il avait été en situation de précarité, est-ce qu'elle aurait écouté le gouvernement? Est-ce qu'elle serait restée chez elle? Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Comme on n'a aucune visibilité sur le futur, moi je sais que je connais de plus en plus de personnes qui pensent à abandonner pour faire un métier alimentaire et moi ça me fait peur en fait. Je me dis je peux pas abandonner, il faut bien se nourrir, il faut payer son loyer. On a tous besoin de vivre en fait, ça fait un an qu'on ne vit plus. C'est assez désespérant, mais c'est pour ça qu'on est là, en fait. On ne peut pas attendre une deuxième année sans rien faire, c'est pas possible. Il faut vraiment réouvrir, en fait. Il n'y a aucune excuse, là, en fait. C'est des choix politiques, ce ne sont pas des choix sanitaires.
Cindy Intermittente, qui occupe donc depuis plusieurs jours le Théâtre National de Strasbourg.
Dans un instant, les plus grands voulaient endurcir les plus petits, alors ils les ont violemment frappés. Nous allons revenir sur ces faits de violence au sein d'une même bande. Ça se passe à Créteil, dans le Val-de-Marne. À tout de suite.
RTL Matin.
Avec Yves Kell.
RTL Matin.
7h07, la suite du journal de Dominique Tenza. On évoque souvent dans nos journaux ces violentes altercations entre bandes rivales. Cette fois, c'est au sein d'un même groupe de jeunes que les affrontements ont eu lieu.
Et c'est ce qui rend cette affaire toute particulière. 5 adolescents viennent d'être mis en examen à Créteil, dans le Val-de-Marne, pour avoir frappé et tiré au taser sur de jeunes garçons de 12 ans à qui ils voulaient, Guillaume Chies, donner une leçon.
Oui, des violences en deux temps. D'abord, ces très jeunes garçons se sont fait humilier par une bande rivale d'un autre quartier de Créteil, fin février. Pantalons baissés, filmés par des téléphones portables, ils sont obligés de chanter des insultes contre leur propre quartier. De retour chez eux, ce sont les plus grands qui vont leur tomber dessus. Les images de leur humiliation circulent sur les réseaux sociaux. Il faut laver l'affront. 5 adolescents de 16 et 17 ans vont alors les tabasser pour les endurcir, disent style coup de pied, de poing, de pistolet, impulsion électrique et de carabine à plomb. Là encore, les violences sont filmées. Un des enfants extrêmement choqué a déposé plainte. Les 5 mineurs auteurs des coups ont été interpellés en fin de semaine dernière. 2 sont actuellement placés en détention provisoire. Ils sont mis en examen pour violence aggravée et même tentative de meurtre pour l'un d'eux.
Récit de Guillaume Chies. 5 mois après la fermeture administrative de la mosquée de Pantin, Gérald Darmanin demande au préfet de Seine-Saint-Denis sa réouverture. Suite à la démission du recteur, le lieu de culte avait été fermé après l'assassinat de Samuel Paty. La mosquée avait partagé à l'époque sur les réseaux sociaux des vidéos dénonçant le cours sur les caricatures du professeur.
7h09, 3 mois se sont écoulés depuis la disparition de Delphine Jubilard et les indices dont disposent aujourd'hui les enquêteurs sont bien minces.
Qu'est-il arrivé à cette jeune infirmière du Tarn, cette mère de famille qui laisse derrière elle 2 enfants âgés de 6 ans et d'un an et demi? 3 mois de recherche, d'interrogatoires, de soupçons. Mais aucune avancée, aucune piste concrète. RTL est retourné dans son village, à Cagnac-les-Mines, près d'Albi, où le mystère reste entier. C'est un reportage de Patrick Hisson.
À quelques mètres de la maison de la famille Jubilard, Adrien est l'un des plus proches voisins. Depuis plusieurs semaines, le quartier est beaucoup plus calme.
C'est redevenu normal, ouais, on a plus de soucis, plus de remue-ménage. On ne sait pas où ça en est, si ça avance, si ça avance pas.
La maison où Delphine a disparu est parfois occupée, mais Cédric, son mari, s'y montre très discret.
On voit de la lumière le soir, mais après, on ne sait pas s'il reste, s'il part. On ne le voit pas, même ses enfants, non, on ne les voit pas, on ne les entend pas.
À l'entrée de la maison, le seul changement est ce mur de briques monté à la hâte pour éviter toute intrusion. Jean-Baptiste Allary est l'avocat de Cédric Jubilard.
Je peux comprendre que d'avoir des badauds, des journalistes également, en permanence devant chez soi, alors ça peut être spécifiquement difficile à vivre.
Un peu plus haut, au cœur du village, toutes les rumeurs qui alimentaient les conversations ont laissé place à cette préoccupation que partage Patrice Norkowski, le maire de Cagnac-les-Mines.
Je pense quand même en priorité aux enfants, quoi, hein, qui aujourd'hui doivent être les plus peinés de cette disparition. J'ai un sentiment, une compassion pour les enfants, quoi.
Et le maire du village est l'un des rares à imaginer encore une issue positive à cette disparition.
J'espère en bon et loin, quoi. J'ai quand même un espoir de ce côté-là. C'est mon avis personnel, mais bon, j'ai envie d'y croire.
Mais chaque jour qui passe rend bien sûr ce scénario de plus en plus improbable.
Patrick Hisson à Cagnac-les-Mines dans le Tarn pour RTL. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité cette nuit en première lecture la proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs face aux violences sexuelles et notamment à rabaisser à 15 ans l'âge en dessous duquel un enfant est considéré non consentant pour un acte sexuel avec un adulte.
On va partir en Alsace pour terminer ce journal dans le petit village de Balbronn, fier de pouvoir contribuer à la renaissance de Notre-Dame.
Un chantier titanesque, vous le savez, pour reconstruire la charpente. 1300 chênes ont été abattus dans toute la France et chaque commune possédant une forêt a été invitée à participer, à faire un don. Cela représente parfois plusieurs milliers d'euros. Les habitants de Balbronn vont donc offrir deux chênes remarquables. Reportage de Yannick Collant.
C'est le premier et puis le deuxième juste derrière. Là.
C'est au cœur de la forêt de Balbronn que Daniel Reichert a repéré ces deux chênes majestueux. Il est technicien à l'Office national des forêts et a tout de suite prévenu le chantier de Notre-Dame de Paris.
85 de diamètre, entre 25 et 30 mètres de haut. On frise les 200 ans en fait. C'est pour la flèche.
Ces chênes sont donc extrêmement précieux et c'est une vraie fierté pour Romain Schnelzauer, le bûcheron.
Des arbres qui sont merveilleux. Pour la cathédrale, c'est un honneur de pouvoir les couper. On dit, il n'y a pas mieux comme arbre hein, pour la Notre-Dame de Paris. Hein.
Et après quelques minutes de tronçonneuse, le géant est à terre sous les yeux émus de Michel Schmitt, adjoint au maire en charge de la forêt à Balbronn.
Ça fait quelque chose de se dire que c'est un peu pour tous les villageois. C'est pas juste on donne deux chênes, mais tout le monde aura une certaine fierté à dire on a participé. Pour nous, nos générations futures, une fois qu'ils iront visiter la cathédrale à Paris, qu'ils se souviendront toujours, il y a un petit morceau de chez nous qui est là-bas. Quelque part, c'est magique.
Et voilà comment un petit village alsacien de 660 habitants va aider à réécrire dans le ciel de Paris une page de l'histoire de France.
Très beau reportage de Yannick Collant.
Les courses ont lieu, pardonnez-moi. Pas encore, voilà. C'est plus logique à Chantilly aujourd'hui.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 8, le 10, le 9, le 12, le 4, le 6 et le 16. La dernière minute, c'est le 4 El Magnifico.
C'était le journal de Dominique Tetza.
Il est 7h13, la politique avec Olivier Bost. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Nous avons assisté hier à un mouvement de panique des politiques. Olivier.
Tout à fait, une nouvelle contagion, une forme d'épidémie dans l'épidémie qui a traversé toute l'Europe en quelques heures. Les politiques du nord du continent d'abord, puis jusqu'à ceux du sud, ont paniqué. Ils ont subitement eu la trouille de l'opinion publique. Et cette épidémie de trouille va alimenter des doutes, pour l'instant infondés, sur l'un des trois vaccins dont nous disposons pour combattre l'épidémie, la vraie, celle du Covid.
C'est donc pas une décision rationnelle.
Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que tout est inversé. C'est devant la panique que l'Agence européenne du médicament a annoncé qu'elle allait réétudier son jugement sur l'AstraZeneca, mener un complément d'études. Cette décision n'est basée aujourd'hui sur aucune étude scientifique. Il y a des effets indésirables, répertoriés et suivis, mais ils sont très inférieurs aux bénéfices du vaccin. C'est ce qu'a redit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est ce que confient en France les entourages du Premier ministre comme du ministre de la Santé. Il n'y a pas pour l'instant de doute sérieux sur l'AstraZeneca. Pas plus tard que dimanche, Jean Castex répétait sa confiance dans ce vaccin. Olivier Véran l'avait fait la semaine dernière. Aujourd'hui, on meurt du coronavirus. 2,7 millions de morts dans le monde, 90 000 en France. On ne meurt pas du vaccin.
Donc nous sommes en quelque sorte dans le principe d'ultra-précaution, alors, de risque zéro.
Exactement, de l'ultra-précaution. Les politiques de tous les pays, je vous le disais, ont cédé à l'émotion, aux réseaux sociaux et finalement à leurs voisins européens. En tout cas, pour la France, c'est bien la décision de l'Allemagne qui a amené Emmanuel Macron à céder au vent de panique et à l'annoncer lui-même. Ses conseillers expliquent que c'est une suspension de précaution. Il s'agit d'une opération de transparence et de sûreté pour garder la confiance des Français dans la vaccination, explique-t-il. Quand il y a un soupçon, même infondé, il faut donc mieux y répondre que de le laisser prospérer.
À moins que le risque soit de donner des arguments aux anti-vaccins. Hein.
Alors les anti-vaccins, vous le savez Yves, n'ont pas besoin des atermoiements du gouvernement pour penser qu'on leur ment. S'il n'y a pas de doute, de toute façon, ils les inventent de toutes pièces. Le vaccin est le traitement le plus efficace pour ne pas attraper le Covid, mais aussi, malheureusement, pour attraper toutes les théories du complot. L'Europe aussi n'avait pas besoin de ça, pas besoin d'une crise de confiance irrationnelle, alors que nous sommes déjà à la traîne pour la vaccination. Quand les politiques paniquent, ce n'est pas rassurant.
Merci beaucoup Olivier Bost. L'actualité politique est à retrouver sur le site RTL.fr. Et dans moins de 30 minutes, je vous le rappelle, c'est la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui sera l'invitée d'Alba Ventura. Rendez-vous donc à 7h40. Dans un instant, nous serons avec Benjamin Davido, qui est référent pour la vaccination Covid, et va nous aider à comprendre la décision de suspension des injections AstraZeneca. Et nous évoquerons aussi le très mauvais chiffre de l'épidémie, qui vont probablement pousser le gouvernement à mettre un nouveau coup de vis. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h16. La France a donc décidé de suspendre à son tour, par précaution et de façon provisoire, l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca, en attendant l'avis de l'Agence européenne du médicament qui se réunira finalement jeudi. Que représente AstraZeneca dans notre stratégie de vaccination? On fait le point avec notre brigade ce matin. Bonjour Régine Carin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Ce n'est pas le principal vaccin, mais il est essentiel.
Oui, l'AstraZeneca, c'est un quart des livraisons de vaccins en France d'ici à la fin du mois de juin. 17 millions de doses sur les 72 millions prévues. Mais ce week-end, le laboratoire a annoncé de gros retards et même énormes, puisqu'il a expliqué qu'il ne pourrait honorer que 25% des commandes en mars. Alors, le vaccin est fabriqué en partie aux États-Unis et les Américains retiennent chez eux des doses pour eux, ce qui expliquerait, selon AstraZeneca, le problème d'approvisionnement.
Alors rappelons qu'aujourd'hui, des Français devaient se faire vacciner par leur pharmacien. Les rendez-vous sont donc bien annulés.
Hein. En tout cas, reportés jusqu'à vendredi au moins. Les doses restent dans les frigos, puisqu'il faudra attendre l'avis de l'Agence européenne jeudi. Alors effectivement, dans la stratégie de la France, AstraZeneca est le vaccin utilisé en ville par les pharmaciens, les généralistes, dans les entreprises, mais aussi dans les centres de vaccination destinés aux soignants. Sans l'AstraZeneca, tout s'arrête pour l'instant, alors que l'épidémie est en train de s'emballer dans certaines régions. C'est un coup dur.
Pourtant, aucun risque n'a été prouvé concernant le vaccin.
Alors, sur 17 millions de personnes vaccinées en Europe et surtout au Royaume-Uni, il y a eu une soixantaine de cas de thrombose, des caillots de sang, mais pas plus en proportion que dans le reste de la population non vaccinée. Ça n'augmente pas les risques, expliquait encore l'agence européenne jeudi dernier. Les Allemands, eux, ont repéré des thromboses cérébrales, 4 cas pour 1 million de vaccinés, sans pouvoir dire s'il y avait un lien avec le vaccin.
On peut compenser le manque avec d'autres vaccins?
Compenser, non. Alors, il y a le Pfizer, le principal, la moitié des doses attendues en France. Le Moderna, plus confidentiel, 10% des doses reçues. Le Johnson en avril et le CureVac en juin. Si Pfizer arrive à honorer ses livraisons, 1 million par semaine, les autres ont plus de mal et la stratégie de vacciner 10 millions de Français d'ici à la mi-avril et 30 millions d'ici à l'été, promises par le Premier ministre, ne pouvaient fonctionner qu'avec l'AstraZeneca. Alors déjà, avec les retards, le laboratoire devait nous en livrer 4 fois moins en mars. Donc de toute façon, les objectifs fixés par le gouvernement ne seront pas atteints. Que l'AstraZeneca soit à nouveau autorisé jeudi ou pas, tant qu'on a des doses, on ne confine pas, avait dit Emmanuel Macron. Eh bien, il n'y en a presque plus.
Merci Virginie Garin. Bonjour et bienvenue Benjamin Davido.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct dans ce studio. Vous êtes directeur médical et référent vaccin à l'hôpital Raymond Poincaré de Garges, dans les Hauts-de-Seine. 17 millions de personnes vaccinées, nous disait Virginie Garin à l'instant. Que dites-vous à tous les Français ayant reçu une ou deux doses du vaccin AstraZeneca ce matin? Parce qu'ils doivent se poser des questions et c'est normal qu'ils soient perturbés.
Alors vous avez raison, surtout que pour l'instant personne n'a reçu la deuxième dose puisque le rappel est à au moins 2 mois et demi, 3 mois et on a créé probablement un vent de panique qui n'était pas nécessaire au moment donné où on est en pleine accélération de la vaccination et on expliquait qu'on ne pouvait pas choisir son vaccin et que tous les vaccins étaient équivalents. Et donc on est en train de créer un fossé entre les vaccins ARN messager et les autres vaccins.
On est dans l'irrationnel?
Oui, absolument. Il y a aucune donnée de science et le procès qu'on est en train de faire au vaccin Astra, qui est un médicament, est malheureusement le même qui peut exister pour plein d'autres médicaments dans la vie de tous les jours. Lorsque vous prenez un médicament de l'aspirine ou de l'iprane, que vous ouvrez votre notice, oui, et bien vous verrez des centaines de milliers d'effets indésirables, oui, et pour laquelle d'ailleurs parfois le niveau de preuve d'association n'est pas démontré. Et là, on est dans une rareté. Et surtout, on est dans une situation, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, où l'épidémie frappant, il y a des cas qui peuvent se déclarer de Covid-19 alors qu'on est vacciné, parce qu'on est vacciné trop tard, et qu'on sait d'ailleurs de façon assez ironique que les thromboses veineuses et l'embolie pulmonaire sont associées à la Covid. Donc il y a vraiment un mouvement de panique qui s'associe dans un contexte où les gens malheureusement sont apeurés par la Covid, qui est une maladie qui tue, il faut le rappeler, pour laquelle la balance bénéfice-risque est très nettement en faveur de la vaccination.
Mais nous sommes dans une inversion totale des valeurs, c'est-à-dire qu'on met entre parenthèses un vaccin qui va et qui a forcément d'ores et déjà sauvé des vies face à des questions potentielles qui ne sont absolument pas avérées.
Oui, vous avez raison. En ce moment, on vaccine à peu près 200 000 personnes par jour. Ce qu'on oublie de dire, c'est que hier soir, on a acheté un certain nombre de seringues qui étaient des flacons qui étaient ouverts, qu'on pouvait garder 48 heures et qui aujourd'hui ne vaccineront personne.
Alors, on a parfois utilisé, vous savez, cette expression concernant le vaccin AstraZeneca, donc vaccin anglo-suédois, en disant qu'il était mal né. Que répondez-vous à ça ?
Je ne sais pas, je pense que c'est un mauvais procès d'intention. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se féliciter d'abord d'avoir plusieurs techniques et plusieurs vaccins différents, puisqu'on a une politique où tout le monde veut du vaccin à travers le monde et qu'on doit vacciner extrêmement vite. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut se féliciter parce qu'on a des vaccins créés en temps record avec des techniques, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement immunogènes, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent y compris chez les sujets âgés. C'était un des procès qui avait été fait initialement sur l'absence de données en termes de volume d'effectifs sur des individus de plus de 65 ans. Et donc, on ne peut que se féliciter aujourd'hui de ces vaccins. Et donc, retirer par une suspension, tant bien même elle est provisoire, va entacher de façon irréversible la marque d'AstraZeneca.
Est-ce que du coup, ça menace notre campagne de vaccination, selon vous ?
Oui, évidemment, parce que d'abord, quelque part, on donne raison aux soignants qu'on avait montré du doigt il y a 10 jours, qui se posaient des questions face à AstraZeneca, que déjà, il y avait eu, si je puis dire, une suspicion oui. face au syndrome grippeux qui était associé de façon plus prépondérante à ces vaccins qu'aux vaccins à ARN messager. Ce qu'il faut rappeler, c'est le chiffre de 0,66% d'effets indésirables rapportés aux vaccins Astra versus à peu près 0,3-0,2% pour les vaccins ARN messager. On est dans une rareté à moins de 1%. On fait mieux que n'importe quel vaccin, que ce soit le vaccin grippal annuel, celui que vous voulez. Les vaccins des voyageurs sont des vaccins extrêmement mal tolérés. Donc il y a quelque part une injustice, il y a deux poids, deux mesures, alors même qu'aujourd'hui, on est dans une politique, et les Français l'ont bien compris, où le vaccin est la seule solution pour nous sortir de cette crise.
En revanche, il est avéré que ce vaccin est extrêmement efficace.
Oui, absolument.
En dépit des questions qu'on s'est posées, j'allais vous dire, légitimement, comme sur tous les vaccins, avant de l'utiliser.
Vous avez raison de le rappeler. D'abord, l'OMS a fixé un seuil de plus de 50% d'efficacité pour une validation de ces vaccins. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que d'abord, il y a deux choses qui sont difficiles à comprendre lorsqu'on n'est pas scientifique. C'est-à-dire qu'il y a deux valeurs. Il y a la valeur dont on parle dans les médias, qui est la valeur d'efficacité globale sur le fait de faire des symptômes du Covid, où globalement, on est à plus de 80%, voire 90%, ce qui sont des résultats extrêmement insolents. Et l'efficacité en population, c'est-à-dire de faire de formes graves, ou pour lequel Astra avait montrer même une supériorité au vaccin ARN messager avec 100% d'efficacité. Et encore une fois, l'objectif aujourd'hui, c'est de ne plus faire de formes graves, parce que si demain, on est tous vaccinés et qu'on a juste le nez qui coule pour 20% de la population grâce au vaccin, eh bien l'épidémie s'arrêtera d'elle-même et on vivra avec un virus comme un type de coronavirus, c'est-à-dire un virus grippal qui vit à bas bruit avec nous au sein de la population. C'est pour ça d'ailleurs que moi, j'y crois pas à l'histoire du zéro Covid et que la réalité, c'est qu'on vit tous les jours avec des virus. La seule chose qu'il faut, c'est que ça ne tue pas l'ensemble de la population.
Une dernière question, et ça n'est pas une question piège. Faut-il, selon vous, au vu des chiffres et des informations qui sont les vôtres, confiner l'Île-de-France aujourd'hui, même ponctuellement ?
Je pense qu'on n'a pas d'autre solution aujourd'hui que d'arriver à une escalade des mesures et qu'on voit bien qu'on est au bout de ce qu'on peut faire et qu'on a bien vu lorsqu'on regarde de près les courbes et les tendances épidémiques que, en tout cas, le confinement du mois de novembre, qui était relativement soft, s'il faut le qualifier, avait permis une inflexion de la courbe épidémique. Et à partir du moment où on a mis le couvre-feu, on arrivait sur un plateau extrêmement haut. Et qu'aujourd'hui, très clairement, on sait que d'ailleurs, lorsqu'on vaccine, on vient d'en parler, on est d'autant plus efficace que l'épidémie est contrôlée. Pourquoi ? Parce que le but d'un vaccin, c'est d'empêcher un rebond épidémique.
Oui. Donc la situation en ce moment...
La situation est critique avec une grosse tension sur les collègues de réanimation où on est vraiment sur des situations où on arrive à la limite de devoir faire du tri entre les malades, ce qui éthiquement est extrêmement difficile.
Vous avez été parfaitement clair. Merci beaucoup Benjamin Davidot, directeur médical et référent vaccin à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine. Bonne journée à vous.
Merci.
Dans un instant, notre pépite musicale avec Anthony Martin qui s'installe à ce micro. A tout de suite Anthony.
Bonjour.
TL Matin, Yves Calvi.
7h26, notre pépite, nous vous écoutons, cher Anthony.
Alors parmi les chansons d'Edith Piaf qui ont fait leur bout de chemin en dehors de la France, il y a Milord.
Oui.
Titre écrit en 1958 par Georges Moustaki, alors âgé de 24 ans. C'est à Cannes, durant l'été, entre deux dates de concert dans un hôtel sur la Croisette, que Moustaki a écrit les paroles de Milord en une heure sur la machine à écrire que lui avait offert la chanteuse. C'est devenu un immense succès sur une musique composée par la pianiste Marguerite Monod. Dès 1960, Dalida, qui en ratait pas une, a chanté Milord en italien et en allemand. Et la chanson a mis quelques années de plus pour traverser l'Atlantique. Milord est notamment apparu en 1966 sur l'album d'une chanteuse américaine qui avait 20 ans cette année-là. Elle formait un duo avec son mari, Sonny. C'était Sonny and Cher. Et c'est sur un de ses albums solo qu'on trouve son interprétation de Milord. C'est notre pépite du jour. Cher reprend Edith Piaf dans une version au pas de charge du classique Milord.
Take the rest. The story is the same wherever young love grows, and no one is to blame. It's just the way it goes. You're not the first who's found that love can be unkind, and still the world goes round, but one heart's left behind. Come on, get hip, Milord.
Cet extrait de l'album The Sunny Side of Cher, sorti il y a pile 55 ans. C'est l'album qui s'ouvrait sur la chanson Bang Bang. Oui. Le texte de Milord en anglais n'est plus tout à fait le même. Cher raconte la fin d'une histoire d'amour, mais la prostituée qui réconforte Milord dans la version originale de Moustaki a disparu.
Bon.
je me suis toujours demandé ce qu'avait mangé ou bu Marguerite Monod quand elle a écrit le refrain. Bon, enfin, ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup, Anthony. On se retrouve demain matin et puis on retrouve en permanence vos pépites musicales en podcast et à tout moment en replay sur l'appli RTL. Le rendez-vous des grosses têtes dès 15h30 avec Laurent Ruquier. Et notre clin d'œil matinal, on va rire un petit peu avec la plus célèbre des vaches.
Il paraît que c'est Mme Rabier qui a dit à Benjamin Rabier, mets-lui des boucles d'oreilles afin de féminiser l'animal. Parce que qu'une vache, si elle n'a pas de boucles d'oreilles...
Ah non, c'est féminin.
Bah si, les mamelles.
Tu vois pas les mamelles en regardant la tête.
Mais en regardant la tête.
Il n'y a que la tête sur le paquet de fromage.
Ouais, mais on voit bien l'œil un peu séducteur de la vache quand même. Ouais.
Ah, vous trouvez?
Ah ouais. C'est pas le même regard que le mec.
C'est pas pareil.
Cela dit, quand on va acheter du bœuf dans les boutiques de boucherie, là, c'est souvent de la vache.
Et pourquoi on dit des boutiques de boucherie?
Boutique de boucherie.
Oui.
Il a complètement perdu le fil, notre ami Gérard.
Quand je disais qu'il avait le mieux vieilli, je parlais physiquement. Oui,
c'est souvent ça.
C'est
sur
les boutiques. C'est Gérard, faudrait que t'ailles dans une boutique de médicaments.
Rendez-vous dans le grand studio des 15h30 avec Isabelle Mergaud, Pierre Palman, Michel Faux, Ariel Dombal, Bernard Mabie et Florian Gazan. Bonjour Libaudin.
Bonjour Yves.
C'est mardi gris.
Oui, c'est mardi gris. Oui, c'est encore simple. La météo aujourd'hui, je vous mets une belle couche nuageuse quasiment partout. Sous ces nuages, quelques pluies. Là, je les vois revenir par le Nord-Pas-de-Calais. Hein, dans l'Île-de-France, là, ça va être d'ici une heure, on aura de nouveau de la pluie. Cette pluie qui va s'étaler sur toute la moitié est en cours de journée. Pluie en plaine, mais neige en montagne où elle va de nouveau tomber. Il y a eu plus d'un mètre de neige ces derniers jours sur quasiment tous les massifs, hein, les Vosges jusqu'aux Alpes. Alors, mais c'est insupportable. Plus de cette neige, elle va donner encore un fort risque d'avalanche dans les Alpes. Donc, pour échapper à cette grisaille, à cette humidité, il faudra aller sur la pointe bretonne. Il y aura un peu plus d'éclaircies et surtout près de la Méditerranée, où avec l'aide du vent, quand même, le ciel sera plus dégagé. Attention aux brouillards denses en ce moment à Rouen, à Tours ou encore du côté de Cherbourg. Les températures, on se rapproche des gelées en ce moment. Et cet après-midi, 7 à 10 degrés seulement de la région Rhône-Alpes au nord-est. 10 à 14 degrés dans les autres régions. C'est à peine de saison. 14 à 17 près de la Méditerranée.
Alors, saluons nos amis et auditeurs de la pointe bretonne, oui, qui aujourd'hui seront un petit peu gâtés, si je vous ai bien compris.
Exactement.
Bonne journée à tous, RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 16 mars. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous et bonjour à notre nouvelle carte d'identité. C'est la première carte numérique avec une puce. Elle va débarquer sur tout le territoire au mois d'août, mais elle est testée dès cette semaine dans l'Oise. Bonjour Mourad Djabari.
Bonjour.
C'est une carte d'identité plus sûre a priori et aussi plus pratique.
Oui, plus pratique parce qu'elle est largement plus petite, tient dans une poche de pantalon. Elle ressemble tout simplement à une carte de crédit d'après nos confrères du du Parisien. À l'avant, rien ne change, ou presque. Votre photo est toujours là, le prénom, le nom, la date de naissance aussi, mais traduit en anglais et en relief pour les malvoyants, avec un petit drapeau européen en haut à droite. Et puis au dos de cette carte d'identité, vous pouvez indiquer deux adresses pratiques pour les enfants en garde alternée. Et c'est ici que l'on retrouve la fameuse puce électronique qui, une fois scannée, contient des données biométriques comme vos empreintes, la photo de votre visage. Un QR code permet une signature électronique et sécurisée. On trouve aussi votre photo en hologramme. Et tout cela permettrait de rendre cette carte inviolable et limiterait les usurpations d'identité. Cette nouvelle version, cette carte d'identité 2.0 reste gratuite, évidemment. Les démarches restent les mêmes et elle est toujours délivrée en mairie.
Merci Morad, et précisons que les cartes d'identité actuelles restent valides jusqu'à leur date d'expiration.
C'est le principe de précaution poussé à l'extrême. La France suspend à son tour la vaccination AstraZeneca.
En cause des cas de thrombose signalés ici et là en Europe, ils sont très peu nombreux et le lien avec le vaccin n'est pas avéré. Mais comme dans bien d'autres pays, Emmanuel Macron a finalement décidé de faire une pause en attendant les informations de l'Agence européenne du médicament qui se réunit jeudi. Pour tous ceux qui vaccinent, c'est plutôt décourageant. Écoutez Philippe Bessé, le président de la Fédération des pharmaciens.
On a un flacon de 10 doses, donc on fait 3 vaccinations, puis ensuite on apprend qu'il faut interrompre la vaccination et on dit aux gens qui sont là qu'on ne peut plus les vacciner. On a l'impression de repartir à la case départ. Moi, je comprends un peu le découragement de tous ceux qui ont en charge de faire réussir cette campagne de vaccination. La vaccination, c'est le seul principe qui va nous sortir de cette épidémie de Covid qui, rappelons-le, fait près de 300 morts par jour.
La vaccination ralentie et peut-être un reconfinement en vue. Nous aurons à prendre dans les jours qui viennent sans doute de nouvelles décisions. C'est ce qu'a déclaré hier Emmanuel Macron. L'Île-de-France s'attend à un nouveau tour de vis car désormais le taux d'incidence est au-delà de 400. Situation toujours très tendue aussi dans les Hauts-de-France, notamment dans le Dunkerquois. Là aussi, on déprogramme des opérations, on transfère des malades, mais ça s'annonce de plus en plus compliqué. C'est ce que dit Thierry Popard. Il est médecin-chef de la commission médicale de l'hôpital.
La pression actuelle sur l'hôpital n'a pas baissé. Et nous, notre inquiétude, c'est d'avoir la possibilité de continuer de transférer dans les autres réanimations de la région, en sachant que nous, on a commencé le pic d'incidence parmi les premiers. Et pour nous, la difficulté, ça va être d'avoir cette possibilité de transfert qui peut s'amoindrir du fait des tensions que les autres collègues vont connaître dans les semaines qui viennent.
Un propos recueilli par Franck Hanson. Et pour ne rien arranger, la Direction Générale de la Santé signale un nouveau variant en Bretagne. Des analyses sont en cours pour savoir s'il est plus virulent et plus contagieux.
7h34, Jean Castex lui tente de se projeter dans l'après-crise.
Oui, à l'issue de la troisième conférence sociale, le Premier ministre annonce le retour de la prime Macron. Les entreprises pourront verser jusqu'à 1000 euros au bas salaire, 1000 euros défiscalisés. Les aides à l'apprentissage sont prolongées jusqu'à la fin de l'année, mais les primes à l'embauche des jeunes n'iront pas au-delà du mois de mai. Des jeunes qui tirent le diable par la queue. Voilà pourquoi le sénateur centriste Pierre-Antoine Lévy propose la création d'un ticket restaurant étudiant.
Cette idée de ticket restaurant, c'est un peu calqué sur le même modèle que les entreprises. On n'a qu'à dire que la valeur faciale d'un ticket restaurant, 6,60 €, prise en charge à 50% par l'étudiant et 50% par l'État. Donc, avec donc la possibilité pour l'étudiant de les utiliser soit dans un restaurant, soit dans une supérette. Il y a certainement d'autres bonnes idées à prendre. Je crois que sur ce sujet-là, on peut trouver un consensus.
Propos recueillis par Valentin Boissé. Selon les informations d'RTL, Emmanuel Macron se dit plutôt intéressé par l'idée. Le gouvernement entend aussi passer la seconde sur les petits déjeuners gratuits à l'école. L'enveloppe va passer de 12 à 40 millions d'euros avec donc une fréquence des distributions accrue dès la rentrée prochaine en septembre. La crise qui pèse de plus en plus sur le secteur de la culture, l'occupation du théâtre de l'Odéon à Paris a fait tache d'huile. Désormais, près de 50 salles sont occupées dans toute la France par des intermittents ou des étudiants, dont l'Opéra de Lyon et le Grand Théâtre de Bordeaux. La proposition de loi sur la sécurité globale est examinée à partir d'aujourd'hui au Sénat. C'est l'article 24 qui concentre toutes les critiques. Il prévoyait des sanctions pour la diffusion malveillante d'images de policiers, mais il a été complètement réécrit en commission. La gauche réclame toujours sa suppression pure et simple. De son côté, l'Assemblée a voté cette nuit à l'unanimité un texte qui renforce la protection des mineurs face aux violences sexuelles. En dessous de 15 ans, c'est simple, on ne pourra plus parler de consentement de la victime.
Un Français nommé 6 fois aux Oscars, on n'avait pas vu ça depuis les artistes en 2012.
Il s'agit de Florian Zeller pour l'adaptation au cinéma de sa pièce Le Père, devenu The Father, c'est logique. Un immense succès au théâtre dans le monde entier. Il est en lice, notamment dans la catégorie meilleur film et meilleur acteur pour Anthony Hopkins. Florian Zeller qui savoure sans s'emballer.
C'est vraiment quelque chose que je partage avec toute mon équipe. D'ailleurs, quand on a la nomination pour meilleur film, ça récompense vraiment un travail collectif. J'anticipe pas trop sur tout ça parce que d'abord, j'aime bien être surpris. Et puis en plus, c'est tellement un peu le hasard ce qui va se passer, je crois. il y a des choses qui nous échappent complètement. Donc je prends ce qui est à prendre.
Florian Zeller au micro RTL de Stéphane Boutsock.
Les favoris des Oscars, nous y reviendrons avec Stéphane à 9h dans Laissez-vous tenter. On se retrouve nous à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, vous verrez que le Brexit nous poursuit jusqu'aux toilettes.
Oula. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Vous faites dans la critique d'art ce matin.
Oui.
Hein, sur un sujet où on ne s'y attendait pas en quelque sorte.
Oui, vous connaissez le style Louis XV, le style Empire, le style Nouille. Oui. Eh bien, maintenant le style Macron.
Ah bon?
Oui, ce sont des textes bureaucratiques parfaitement incompréhensibles qui sont destinés à mettre en place une redistribution sans limite et financée par la dette.
Est-ce vraiment une affaire de style? On en parle dans un instant.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h38, Langlais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
C'est le retour de la prime Macron. De quoi s'agit-il exactement?
D'une usine à gaz, de facture bien française, dans le plus pur style bureaucratique début 21e.
Bien, mais encore.
La prime Macron, c'est la possibilité ouverte à toutes les entreprises de verser à leurs salariés jusqu'à 1000 euros de complément de revenus en franchise de charges sociales et d'impôts. Mmh. Et ça peut aller jusqu'à 2000 euros, mais, et c'est là que ça se gâte, seulement pour ceux qu'on appelle les travailleurs de deuxième ligne. Et seulement si leur entreprise a conclu un accord d'intéressement, seulement si elle a prévu des accords de revalorisation des carrières, et seulement pour 17 métiers réputés indispensables à la vie quotidienne, caissières, employés des transports, aides à domicile, dûment répertoriés dans un savant rapport paru vendredi.
Bah, ce sont ceux qui ont été contraints de travailler pendant le confinement, quand
oui,
même.
Oui, mais il y a quand même quelque chose qui m'échappe. Figure par exemple dans cette liste les agriculteurs. Bon, risque de contamination au travail, ça paraît pas énorme. On y met les caissières alors qu'un téléconseiller chargé de réparer les indispensables lignes internet n'est pas éligible. Et pourquoi oublier le salarié en télétravail chez lui dans 30 mètres carrés avec un ou deux enfants qui se défoncent pour que sa mission soit effectuée? Honnêtement, c'est absurde.
Il s'agit, nous dit l'exécutif, de favoriser le pouvoir d'achat.
Oui, là les bras m'en tombent. On sort de la récession la plus profonde depuis 1876, hein, en temps de paix, pendant laquelle l'économie s'est effondrée alors que le pouvoir d'achat n'a pas bougé d'un cil, grâce à l'intervention massive de l'État. Le contribuable a déversé des centaines de milliards d'euros empruntés oui. pour préserver les salaires et les revenus des indépendants. Et on nous parle maintenant d'augmentation de salaire de surcroît défiscalisé, alors que le déficit de l'État n'a jamais été aussi profond qu'en ce moment. Qu'on n'augmente pas les impôts pour ne pas pénaliser la reprise éventuelle, soit, mais qu'on les baisse alors que la dette s'emballe, honnêtement, ça touche au délire.
Bah alors on pourrait vous dire qu'il ne s'agit que d'une option, rien n'est obligatoire pour les entreprises.
C'est vrai, mais le seul fait que ce dispositif soit annoncé par le Premier ministre crée une attente, qui, si elle n'est pas satisfaite, crée de la frustration. Un ressentiment qui n'est en rien justifié dans une période de crise comme aujourd'hui.
Bon, est-ce qu'on peut au moins se dire que cela va soutenir la consommation?
C'est même pas sûr, Yves. Il est probable que le montant de cette prime finira sur les comptes d'épargne, conforter encore le matelas de 120 milliards d'euros que les Français conservent par précaution. Plus le gouvernement s'endette pour redistribuer aux ménages, plus les Français épargnent et stérilise cet argent en refusant de le réinvestir. On arrive à une situation absurde. La dette de l'État et l'épargne des Français progressent au même rythme, l'une alimentant l'autre, alors que l'activité reste faiblarde parce que les Français ont peur de l'épidémie et de ses conséquences sur l'emploi. Cette prime, alambiquée, difficile à justifier, à l'utilité problématique, elle n'a guère qu'une raison d'être politique. Il s'agit d'attendrir l'électeur à la veille d'une échéance présidentielle en profitant de l'incroyable déresponsabilisation planétaire en matière de finances publiques.
Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site RTL.fr et nous reviendrons sur ces questions à 8h20 avec François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, qui sera notre invité. Il est 7h41. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. Je lui demanderai comment elle a vécu la soirée des Césars et puis si elle est en mesure aussi de donner une perspective, une date pour la réouverture des ciné, des salles de spectacle et des musées.
Eh bien ça tombe bien, je me pose la même question que vous. A tout de suite.
RTL Matin avec Yves Calvi.
7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.
Bonjour Roselyne Bachelot.
Bonjour Alba Ventura.
Seuil critique, sursis, situation bientôt hors de contrôle, des semaines perdues, voilà ce que l'on entend de la part des scientifiques et on le constate avec des déprogrammations dans les hôpitaux, des transferts de malades, notamment pour ce qui est de l'Île-de-France. Le président Macron a dit hier, nous aurons à prendre dans les jours qui viennent sans doute de nouvelles décisions adaptées et proportionnées Avec une déclaration comme ça, Madame la Ministre, on a raison de s'inquiéter, notamment dans le monde de la culture ?
On a raison de s'inquiéter de la situation sanitaire, effectivement, mais le président a aussi ouvert un message d'espoir en disant que nous étions en train de travailler à donner de la visibilité à la réouverture des lieux de culture, des lieux de sport, des lieux de et d'autres lieux de convivialité. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons au ministère de la Culture en préparant des protocoles robustes et adaptés aux différents lieux culturels.
Vous testez...
Oui, toutes sortes de travaux sur les tests, sur les jauges, sur les conditions de sécurité, sur le développement de ce qu'on appelle les outils numériques comme les QR codes qui permettent de retracer éventuellement des zones de
contamination. Quand vous dites des protocoles robustes.
De contamination. Oui, des protocoles robustes. Nous sommes en train d'y travailler parce que, bien entendu, nous voyons les aléas de la pandémie et il va falloir s'en sortir. On ne peut pas attendre que la pandémie disparaisse. Je crois qu'elle restera longtemps notre compagne de vie avec toutes sortes de catastrophes qui peuvent arriver. Donc nous sommes en train de bâtir avec les professionnels ces protocoles.
Mais alors, que dites-vous ce matin à tous les professionnels? Quelle perspective vous leur donnez? Regardez, à New York, ils viennent de leur dire les salles de spectacle vont rouvrir le 2 avril. Est-ce que vous leur dites pour le mois d'avril, faites une croix mes amis? On se donne rendez-vous, moi.
Je n'en suis pas encore à faire ce type d'annonce. Moi, je ne veux pas prendre d'exemple sur les États-Unis qui n'accompagnent absolument pas leur monde culturel et qui les ont laissés vraiment sans la moindre aide, etc. Nous ne sommes pas dans cette politique-là. Nous sommes aux côtés du monde de la culture et nous le sommes massivement aux côtés du monde du théâtre, du théâtre vivant, du cinéma, de toutes les formes, des festivals, de toutes les formes de spectacles. Donc moi, je suis pas dans le système américain et je ne le serai jamais.
Il y a des festivals qui auront lieu cet été. Est-ce que vous pouvez déjà leur dire qu'ils seront maintenus? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez
dire? C'est quelque chose que nous avons travaillé et je dois dire, sauf une catastrophe absolument impossible dans la pandémie, il y aura des festivals cet été.
Et vous aviez ouvert la porte au deuxième trimestre. Hein. Donc, deuxième trimestre, si je compte bien, c'est avril, mai, juin. Donc là, vous n'êtes pas sûr encore.
Écoutez, moi, ce que je veux, c'est avoir un message résolument optimiste. Je dis aux équipes, on travaille, on fait des répétitions, on se met en position d'être apte à ouvrir ces festivals, à ouvrir des lieux de culture. Si une catastrophe se produisait, bien entendu, nous serions à leur côté pour les indemniser. Et c'est ça le plus important.
On va en parler. Puisque j'ai aussi une ancienne ministre de la Santé en face de moi, je vous pose cette question. Est-ce qu'il faut se méfier du vaccin AstraZeneca?
Écoute, je ne vais pas répondre sur ces questions-là. Ça, c'est le boulot d'Olivier Véran. Moi, je dis une seule chose, il faut se faire vacciner. Ça, c'est tout à fait important. On a vacciné avec AstraZeneca. Les effets secondaires ont été quand même très minoritaires par rapport au nombre de millions de personnes qui ont été vaccinées. Maintenant, je laisse Olivier Véran prendre les décisions et faire les annonces sur ce sujet. Je ne suis pas non plus ministre des sports, des finances.
Vous avez été vacciné, vous ?
D'ailleurs, je suis vacciné bientôt. Je suis rentré dans les publics prioritaires.
D'une manière plus générale, Roselyne Bachelot, est-ce que dans une crise comme ça, on prend forcément des décisions impopulaires ? Vous avez été aux premières loges, avez été ministre de la Santé en pleine crise.
Est-ce qu'on prend des décisions impopulaires? Moi, je pense qu'on ne prend pas des décisions impopulaires, on prend des décisions difficiles. Parce que quand je vois certaines réactions, comme si c'était une sorte de plaisir pervers et sadique que nous aurions à fermer des lieux de culture. Mais moi, je ne rêve que d'une chose, c'est que les lieux de culture ouvre, marche, fonctionne, qu'on puisse s'y retrouver. Nous apportons toutes les aides possibles. Elles sont inégalées dans le monde, les aides que nous apportons à la culture. 7 milliards l'an dernier pour soutenir tous ces lieux culturels, à la fois par des mesures transversales et des mesures sectorielles adaptées. Mmh. Regardez par exemple ce que nous avons fait en quelques jours pour aider le monde de la culture et du théâtre vivant. 100 millions d'euros. Nous avons 30 millions d'euros pour aider les festivals, 20 millions sur l'emploi artistique, 17 millions pour un fonds d'urgence pour les gens qui ne relèvent pas de la de l'intermittent du spectacle,
les
22 millions pour
ou...
les artistes auteurs, 15 millions d'euros pour les tournages.
Vous voulez dire que les Français ne s'en rendent pas compte ou que les artistes sont ingrats ?
Mais moi je porte pas de jugement de valeur sur les gens. J'écoute leur détresse. Je comprends qu'on puisse être dans le désespoir, dans la frustration. Moi, je ne suis pas là pour pleurnicher, je suis là pour aider.
Vous avez aimé votre première cérémonie des Césars ?
Alors, je me suis posé une question. Non, mais attendez, au dehors, mais ce que j'ai ressenti n'a strictement aucune importance. Moi, je suis la défenseure du monde de la culture. Et je me pose une seule question qui a d'ailleurs été posée à ce micro, en creux par Gérard Jugnot, dès le lendemain matin de la cérémonie. Est-ce que cette cérémonie a été utile au cinéma français ? Je crois qu'elle n'a pas été utile au cinéma français. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que finalement, le côté meeting politique de cette affaire, je pense, a nui à l'image du cinéma français, alors que le cinéma français est massivement aidé. Dans aucun pays du monde, un État n'aide le cinéma français comme on le fait. 1,2 milliard d'aides en 2020, et nous continuons en 2021. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est la rupture avec le public. Sur les réseaux sociaux, sur les commentaires, alors que les gens aiment leur cinéma.
Mais quoi, c'est un monde espèce... qui se regarde le nombril ?
Je sais pas, je ne veux pas porter de jugement de valeur, je constate des faits. Et il s'est secrété une antipathie absolument incroyable. Et troisième élément, le cinéma, c'est une industrie, ce qu'on appelle une industrie culturelle et créative. Donc, les Césars, c'est une vitrine pour vendre notre cinéma à l'international. Est-ce que vous voyez l'image que ça a donnée ? Donc, c'est navrant de voir des artistes piétiner leur outil de travail.
L'État a aidé le cinéma à hauteur de 1,2 milliard d'euros au total, hein, avec prolongation des droits à indemnisation pour les intermittents, ce qu'on appelle l'année blanche. Est-ce que cette année blanche va être reconduite ?
Alors, nous sommes en train de travailler, et on aura les résultats de la mission qui a été confiée à un spécialiste de ces questions qui s'appelle André Goron. Et qui va, parce que nous ne serons pas dans la même année que 2020-2021... Il y aura une reprise, bien entendu, des activités culturelles. On voit à peu près à quelle échéance. Donc, on est en train de travailler. Le travail sera remis le 31 mars, donc dans 15 jours. Mmh. Et là, nous aurons un système qui, de toute façon, je le dis solennellement, protégera les artistes. Il n'y aura aucun droit qui sera écorné. Ça, c'est le plus important à savoir.
Un peu de baume au cœur par rapport à cette soirée des Césars. Florian Zeller, 6 nominations aux Oscars pour son film The Father, issu de la pièce Le Père. Là, vous êtes contente, Roselyne Bachelot.
Mais écoutez, il faut d'abord se battre pour notre cinéma et pour les gens qui travaillent. Et qui ne se sont pas reconnus d'ailleurs dans la cérémonie. J'ai reçu des centaines de messages avec des gens qui me disaient un mot, on a eu honte. C'est terrible d'ailleurs ce mot. Et de dire que le cinéma français est finalement le seul cinéma européen, et ça à cause de qui ? À cause du talent des artistes, des créateurs, des réalisateurs, mais aussi à cause de l'État français. Ben, tant mieux.
Et on croise les doigts pour Florian Zeller. Roselyne Bachelot, l'État va restituer un tableau de Gustav Klimt à une famille juive spoliée en 1938 en Autriche. Rosier sous les arbres, c'est le nom de ce tableau.
Magnifique.
L'État rend donc le seul Klimt que la France possédait. Il était jusqu'à présent exposé au musée d'Orsay. Alors c'est une bonne nouvelle pour cette famille, mais c'est une triste nouvelle pour nous.
Moi je ne considère pas que de rendre un tableau à une famille juive spoliée par les nazis et dont Madame Nora Stiassny a donc été assassinée dans les camps de concentration, je ne considère pas que c'est un appauvrissement de la France. Je considère que c'est un enrichissement de la France que de rendre une œuvre spoliée. Parce qu'on s'enrichit pas seulement avec des tableaux, on s'enrichit avec des valeurs.
Une œuvre, ça coûte cher à entretenir. Il y a certaines familles, vous savez, qui revendent après. Hein. Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. peut espérer le récupérer ou est-ce qu'il peut y avoir une cagnotte nationale ou un mécène,
les ayants droit de Nora Spiassny décideront de vendre ce tableau? Ils pourront décider de l'accrocher dans leur salon. C'est une œuvre qui leur reviendra. Ils en sont propriétaires. Si elle venait à être remise sur le marché, à ce moment-là, la France regarderait la façon de racheter un Klimt.
Comment ça coûte un tableau comme ça?
Oh, ça vaut plusieurs centaines de millions.
Il pourrait y avoir d'autres œuvres que la France pourrait restituer?
Ah, nous sommes effectivement, et j'y tiens absolument, dans une politique de restitution des œuvres spoliées. Il y a tout un travail qui est fait par des historiens, des scientifiques qui regardent l'origine des œuvres. Je tiens à signaler d'ailleurs que quand elle a été achetée en 1980, elle a été achetée par le musée d'Orsay en toute légalité. Le travail scientifique à ce moment-là n'était pas abouti. Il y a des lettres qui ont été retrouvées et qui ont permis de revoir le cheminement de l'œuvre.
Rosine Bachot, vous aurez à faire un choix difficile à la fin du mois. Qui de la baguette de pain, des couvreurs zingueurs ou de la fête viticole du Biou d'Arbois fera son entrée cette année dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO? Alors qui?
Ces trois choses méritent d'être regardées. Je suis en train d'y travailler, mais je ne vous ferai pas d'annonce ce matin sur RTL. Ah, bien fait, mais j'en ferai très vite.
Nos auditeurs sont très friands de la baguette de pain, de la fête du Biou d'Arbois et des couvreurs zingueurs.
Moi, ce que je propose, c'est qu'on monte sur un toit de Paris avec un sandwich à la baguette et puis un peu de vin d'Arbois.
Avec plaisir. Merci, voilà. Rosine Bachelot.
Là, on vous suivra certainement. Rosine Bachelot qui confirme la préparation, je cite, de protocoles robustes afin de rouvrir au public les lieux de culture. Il y aura des festivals cet été, sauf catastrophe, vient de nous dire la ministre de la Culture. Sur le cinéma et la soirée des Césars, aucun pays au monde ne fait autant pour son cinéma à hauteur d'1,2 milliard l'an dernier. Merci infiniment. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site RTL.fr. Et nous surfons avec Cyprien Sini avec une polémique belge dans quelques instants. A tout de suite.
RTL Matin, avec Yves Calvi. RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sini.
Vous surfez ce matin?
Oui, avec Annie Cordy.
Ah, ben voilà.
Et avec la polémique du jour. Et franchement, celle-là, il faut bien reconnaître qu'on ne l'avait pas vu venir.
Non.
Le Annie Cordy Gate. Scandale Annie Cordy en Belgique. Alors, je vous explique, hein, parce que ça mérite une explication, oui. Un truc pareil. La semaine dernière, annonce aux infos de la télé belge.
À Bruxelles, le tunnel Léopold II changera de nom au mois de septembre. Les Bruxellois ont été consultés et c'est le nom d'Annie Cordy qui l'a emporté.
Oui, le plus grand tunnel de Bruxelles va changer de nom. Léopold II, ancien roi des Belges, accusé de racisme, détrôné par Annie Cordy. Alors, plus consensuel, c'est pas possible, hein, une femme sympa. Et l'adjointe à la voirie de Bruxelles, absolument ravie, limite euphorique.
Et chaque fois qu'on voit un Bruxellois et on dit qu'Annie Cordy, ils disent « Tata yo-yo ». C'est vraiment... Elle rend heureux les gens.
Un tunnel Tata yo-yo. Formidable. Affaire réglée. Eh bien non. Hier, surprise, sur la télé RTL.
Vous réjouissez bien sûr que les voiries portent davantage le nom d'une femme, mais une chanson d'Annie Cordy vous pose question. On va parler de racisme, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est quelqu'un qui fait des textes un peu bizarres, je vous en prie.
Oh, racisme? Annie Cordy? Tiens donc, explication d'une des plaignantes.
Alors effectivement, on a la problématique des paroles d'Annie Cordy. Donc effectivement, on remet un petit peu en question ce choix-là.
Aïe, les paroles d'Annie Cordy, chanteuse à texte, chanteuse engagée. Mais alors, quelle parole?
Mais quand le diable, qui est un bon diable, me tire par les pieds.
Non, alors la bonne du curé, c'est pas possible.
Non, ça reste, c'est pas possible.
Sinon. Non, c'est là non plus, a priori.
Non, non plus, non.
En fait, le problème, apparemment, c'est donc, attention, vous la connaissez forcément et vous l'avez même déjà chantée, j'en suis sûr. Si tu me donnes tes noix de coco, je te donne mes ananas, Yves. Oui, cette chanson serait donc raciste.
Je pense que c'est l'esprit général, oui. C'est l'esprit de la chanson.
Ouais. Oui, alors ça va peut-être un peu loin, là, hein. Mais bon, après,
je le crains.
En extrapolant, hein, les plats séparent que Georges Brassens...
Garogori.
Vont être débaptisés par le parti anti-animaliste. Animaliste, pardon. Et la rue Serge Gainsbourg à Clermont...
Café, je veux ta couleur,
Ça aussi, hein, ça va devoir changer de nom. En tout cas, je signale quand même que même la LICRA, hein, figure de l'antiracisme, a apporté tout son soutien au tunnel Annie Cordy. L'honneur de la Belgique est sauf. Allez, tous avec moi.
Bon, bah on vous retrouve ce soir avec Thomas Soto.
Absolument, le voilà. Mot de demain.
Vous le ferez chanter ?
Ah, peut-être, je compte sur vous.
Bonne journée, merci. Bonne journée. Infiniment Cyprien. Louis Baudin, notre météo.
Oui, encore très grise, très nuageuse aujourd'hui avec de la pluie qui arrive sur le Nord-Pas-de-Calais, sur la Picardie, qui sera bientôt sur l'île de France et puis qui petit à petit va concerner toute la moitié est, donc des nuages, de la pluie, de la neige en arrivant sur les reliefs de l'est, toujours un risque d'avalanche dans les Alpes, des nuages qui descendront également vers le sud. Pour échapper à ce temps donc très nuageux et humide, il faudra aller sur la pointe bretonne où il y aura certes quelques passages nuageux mais des éclaircies et pas de pluie, et surtout près de la Méditerranée où là avec l'aide du Mistral et de la Tramontane ça restera beaucoup plus dégagé. Attention au brouillard en ce moment du côté de Rouen, à Tours, à Cherbourg, encore à Lannion par exemple, et puis dégelé ce matin, on en retrouve du côté de Nevers, sur le plateau de Langres également, donc température en baisse, et cet après-midi ça restera frais, 7 à 10 degrés seulement de la région Rhône-Alpes au nord-est, mais pas de saison, 10 à 14 degrés dans les autres régions, c'est relativement homogène, il y a que près de la Méditerranée on sera entre 14 et 17 degrés.
Merci beaucoup Louis Baudin, RTL. Il est 8h. Et à 8h sur RTL, c'est le journal de Jérôme Florin.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, les transferts de patients, plus facile à dire qu'à faire.
Les soignants ont de plus en plus de mal à obtenir l'accord des familles, vous l'entendrez. Un nouveau variant détecté en Bretagne, faut-il s'en inquiéter? Et puis trois mois, jour pour jour, sans nouvelles de Delphine Jubilard, cette mère de famille disparue dans le Tarn. On fera le point sur l'enquête.
RTL Matin.
Avec les déprogrammations, c'est l'arme ultime aujourd'hui pour éviter un reconfinement en Île-de-France. Les transferts de patients Covid vers des régions moins tendues. Le gouvernement a fixé un objectif ambitieux, une centaine pour cette semaine, mais est-ce vraiment réaliste? Les familles aujourd'hui rechignent, Odile Pouget.
Oui, obtenir le consentement des familles, c'est aujourd'hui la mission la plus difficile pour les soignants. Yves Cohen, chef de service de réanimation de l'hôpital Avicenne, à Bobigny.
Sur 5 familles, j'ai demandé, moi, vendredi, il y en a 4 qui nous ont dit non. On veut le garder à côté de nous, on veut être à côté.
Contrairement au printemps dernier, les familles ont accès chaque jour au service de réanimation. Elles peuvent ainsi passer du temps au chevet de leurs proches. Et pour elles, la perspective de la séparation est un déchirement.
La famille, vous imaginez, des prothèses psychologiques qui sont avec un patient entre la vie et la mort. On leur demande de transférer à Bordeaux, à Nantes ou à Brest. Chez des gens qui continuent de travailler, évidemment, qui sont le plus souvent précaires de notre département. Comment voulez-vous qu'ils acceptent ça?
Accepter le transfert pour qu'un autre patient en attente puisse bénéficier d'une place en réanimation, c'est le seul argument convaincant que peuvent avancer les médecins. L'accord des familles est de toute façon obligatoire.
Odile Pouget, dimanche soir, il avait toute la confiance de Jean Castex. Et puis hier après-midi, le vaccin AstraZeneca a été suspendu en France sur décision d'Emmanuel Macron. L'annonce a pris tout le monde de court, surtout les pharmaciens qui venaient de commencer à l'injecter. Ouais. L'exécutif attend maintenant l'avis de l'Agence européenne du médicament. L'AstraZeneca pourrait avoir provoqué une trentaine de problèmes graves sur 5 millions de vaccinés en Europe et les autorités affirment qu'aucun lien n'est établi à ce stade. Écoutez Jean-Paul Hamon, c'est le président de la Fédération des médecins de France.
Ça ne va pas simplifier les choses pour les médecins quand la vaccination va reprendre parce qu'il va falloir ramer quand on va recommencer à vacciner pour expliquer aux patients qu'il n'y a pas plus de risque à se faire vacciner. De toute façon, vu le peu de vaccins qu'on avait, c'est 300 000 vaccinations qui vont être retardées pendant la semaine. Je ne vois pas comment l'Agence européenne pourrait interdire ce vaccin qui a déjà passé tous les test et qu'elle a validé il y a quelques mois.
Jean-Paul Hamon avec Mourad Jabari. L'avis de l'Agence européenne est attendu jeudi. 7 États européens ont désormais suspendu la campagne de l'AstraZeneca, dont la France donc et l'Allemagne.
Et voilà qu'un nouveau variant vient d'être détecté en Bretagne. Ce n'est pas une plaisanterie.
Bonjour Virginie Garin.
Bonjour.
Alors, quand on dit variant, ça fait toujours un peu peur. Que sait-on de cet invité surprise, si je puis dire? Est-ce qu'il est plus dangereux, plus contagieux?
A priori, non. L'Agence régionale de santé de Bretagne est plutôt rassurante. Ce variant a été détecté à l'hôpital de Lannion. Il y a eu un cluster, 44 patients et 27 soignants. Le génome du virus a été identifié. Il ne serait pas plus transmissible ni plus sévère, selon les autorités de santé régionales. Mais hier soir, le ministère de la Santé a envoyé un message d'alerte à tous les médecins de France pour surveiller les malades venant des Côtes-d'Armor. Et dans la région de Lannion, pour faire des prélèvements dans le nez plus en profondeur, car ce variant n'est pas détecté par les tests PCR classiques. Des malades avec symptômes ont été négatifs jusqu'à 4 fois. Il est recommandé aussi d'isoler les personnes négatives qui ont un gros rhume. Et tout cela pourrait expliquer pourquoi les Côtes d'Armor sont l'un des départements où les entrées en réanimation augmentent le plus, alors que le nombre de nouveaux cas dans la région de Lannion, lui, baisse. Si les tests ne repèrent pas le virus, on comprend mieux.
Virginie Garin. En bref, la valse des ministres au Brésil. Jair Bolsonaro, le président, va nommer un nouveau patron à la santé, le quatrième depuis le début de la pandémie. Et puis le Chili reconfine un tiers de sa population à partir de jeudi. Les contaminations repartent à la hausse. Le Chili est pourtant le pays d'Amérique latine qui a vacciné le plus.
8h04, c'est l'heure du petit déjeuner et il est gratuit pour plusieurs dizaines de milliers d'écoliers modestes en France.
Et ce, depuis 2019. Un ventre plein le matin, c'est un cerveau plus efficace pour la journée. Et depuis la crise, ce dispositif est jugé encore plus nécessaire par le gouvernement. C'est une information RTL. Le budget pour financer ces petits déjeuners va passer de 12 à 40 millions d'euros par an. Un coup de pouce bienvenu dans ce petit village au nord d'Amiens, à Canaples. Reportage de Marie Guerrier.
Deux employés de la mairie sont chargés de l'accueil à la garderie et désormais, elles servent aussi le petit déjeuner.
Et là, vous mangez, vous jouerez après, d'accord ? Est-ce que tu veux du jus de fruits, Louis ?
Sur le chariot de service, il y a des fruits, des céréales, du lait, de la brioche et des confitures. Louis et Lénie sont en grande section.
Il y a quoi dans ta brioche ?
Oui, tu peux me laisser dire.
Vas-y, dis.
Et un abricot.
15 à 25 enfants, en fonction des jours, fréquentent la garderie.
On constatait qu'il y avait des enfants qui arrivaient de bonne heure, puisqu'on ouvre la garderie vers 7h15.
Marcel Poisson, le maire.
Et on sait que les enfants, avant 7h, ils ne peuvent pas déjeuner correctement s'ils déjeunent.
L'éducation nationale a validé la demande de subvention, 1 euro par enfant et par jour, et le montant sera revalorisé à la rentrée.
Ça correspond à un besoin, donc après, il faut se donner les moyens, et puis c'est tout. Mais c'est vrai que ce n'est pas un coût excessif, donc il ne faut pas hésiter à le faire.
Anne-Claire Jouy, la directrice de l'école, a plaidé pour ces petits déjeuners.
Critère premier était vraiment d'offrir un service et du bien-être aux enfants. Et puis aider les familles.
Pourquoi c'est important de prendre un petit déjeuner le matin ?
Ça donne des forces pour travailler.
Le coup de barre, c'est vraiment quelque chose qui est néfaste pour les apprentissages. Et là, on l'a quand même un peu moins.
Qu'est-ce que tu as envie de manger ?
Un kiwi.
Et tout ça s'inscrit dans un cadre éducatif. L'école s'est engagée à mener chaque trimestre un projet autour de l'alimentation.
Reportage signé Marie Guerrier. Sur RTL ce matin, la consternation de Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, après la cérémonie des Césars. Cette cérémonie n'a pas été utile au cinéma. Il est navrant de voir des artistes piétiner leur outil de travail. Voilà ce qu'a dit Roselyne Bachelot, qui a rappelé que l'État avait financé l'an dernier le cinéma français à hauteur d'1,2 milliard d'euros.
Le mystère de la disparition de Delphine Jubilard près d'Albi, 3 mois après, où en est l'enquête ? On y revient dans un instant.
RTL Matin.
Il est 8h08, la suite du journal de Jérôme Florin. Le mystère semble s'épaissir autour de Delphine Jubilard.
Cette infirmière de 33 ans a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre. Ça fait donc 3 mois depuis, aucune avancée. D'après son mari, elle avait quitté leur maison de Cagnac-les-Mines dans le Tarn à 23h pour promener leurs 2 chiens. Où en est l'enquête ? On fait le point avec la brigade RTL. Bonjour Patrick Tégéraud.
Bonjour.
En 3 mois, de nombreuses pistes ont été explorées.
Oui, les gendarmes n'ont rien laissé de côté. La maison a été longuement perquisitionnée avec les moyens les plus élaborés de policiers scientifiques. L'aîné des enfants, un garçon de 6 ans, qui a dit aux enquêteurs qu'il n'avait rien entendu. Et bien les gendarmes ont même analysé un échantillon.
Alors,
on va essayer de ses
cheveux. On vous entend mal, Patrick. On va essayer de rétablir correctement la liaison. On vous retrouve dans un instant.
On va évoquer maintenant la loi de sécurité globale qui est débattue au Sénat à partir d'aujourd'hui.
Rappelez-vous, cette proposition de loi de la majorité avait fait jaser avec son fameux article 24 visant à sanctionner les auteurs de vidéos de policiers. Sous la pression, le gouvernement avait fait marche arrière et l'article a été profondément réécrit en commission, pour ne pas dire vidé de sa substance, Thomas Proutot.
En effet, toute référence à la diffusion d'images de policiers ou de gendarmes a disparu. L'article 24 renonce également à modifier la loi de 1881 sur la presse, ce qui était prévu dans sa version initiale. En clair, la nouvelle rédaction proposée par le Sénat abandonne la possibilité de poursuivre un journaliste ou toute autre personne qui s'en tient à filmer, diffuser ou mettre en ligne des images des forces de l'ordre. En revanche, le texte crée un nouveau délit, la provocation à l'identification de policiers policiers ou de gendarmes en opération, ce qui recouvre le fait d'assortir ces images d'un nom ou d'une adresse et d'un commentaire malveillant. Et la peine encourue est largement aggravée, 5 ans au lieu de 1 an dans le premier texte. Mais l'article 24 est toujours loin de faire l'unanimité. Certains syndicats de policiers déplorent le flou de la nouvelle infraction et regrettent l'abandon du floutage pourtant promis au départ par Gérald Darmanin. La gauche sénatoriale, elle, réclame toujours la suppression pure et simple de l'article 24.
Les explications de Thomas Proutot. Les députés ont voté cette nuit la proposition de loi renforçant la protection des mineurs. En dessous de 15 ans, un enfant est considéré non consentant pour un acte sexuel avec un adulte. La peine est de 20 ans de prison. Le texte doit maintenant repasser au Sénat.
Le football ?
En football, la suite des huitièmes de finale. Retour de la Ligue des Champions. Manchester City affronte le Borussia Mönchengladbach. Le Real défie, lui, l'Atalanta Bergame. Je vous rappelle que le PSG, Liverpool, Porto et Dortmund sont déjà qualifiés.
Et on finit avec l'homme de l'année.
Comme chaque semaine, je souhaite vous rendre compte de la situation épidémique et de la situation sanitaire dans notre pays.
Le ministre de la Santé a été plus présent à la télévision en 2020 que le président et ses premiers ministres. C'est la première fois que ça arrive, d'après les décomptes de l'INA. 173 prises de parole contre 124 pour Emmanuel Macron. On peut le dire, Olivier Véran, c'est quand on ne le verra plus que ça ira mieux.
Et excusez-nous encore pour nos problèmes de liaison technique avec notre correspondant Patrick Tégéraud. Bien entendu, nous reviendrons dans nos différentes éditions sur l'affaire qui concerne Delphine Jubillard. Dans un instant, on retrouve avec nous nos fake news et monsieur Jean-Mathieu Perrin.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
Au délice, il est 8h13, nous allons faire un petit tour du côté des fake news et des fausses informations avec vous, Jean-Mathieu Pernin. Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, est-il possible pour la France de se fournir en vaccin russe, chinois ou cubain, comme l'affirme Jean-Luc Mélenchon?
Et oui, comme un petit parfum de guerre froide, oui. Puisque finalement tout se passe dans un frigo avec le vaccin. Alors hier sur France Inter, voilà ce qu'a déclaré Jean-Luc Mélenchon.
Il y a un vaccin russe qui depuis le mois d'octobre et de novembre est réputé par des Français. Si j'étais le président de la République, c'est exactement ce que je ferais. De même que je ferais venir les vaccins cubains, de même que je ferais venir les vaccins chinois.
Alors, si sur le papier Cuba paraît exotique, oui. L'île a bonne réputation dans ce domaine, puisque sur les 13 vaccins obligatoires à Cuba, 9 sont produits sur place. Alors actuellement, la Havane développe 4 candidats vaccins contre le Covid, mais contrairement à ce que dit Jean-Luc Mélenchon, il est assez difficile d'aller se fournir là-bas, car le sérum le plus avancé, le Soberana Dos, en est à la phase 3. Phase délicate, puisqu'il s'agit exactement de le tester sur une population de 150 000 personnes entre Cuba et l'Iran. Et oui, puisque Téhéran s'est associé à l'île caribéenne dans la mise en place de cet anti-Covid. La phase 3 est critique, c'est là par exemple où Pasteur a abandonné. Si le vaccin cubain réussit ses tests, il pourrait arriver en juillet et l'île espère ainsi attirer des touristes. Oui. Une récente publicité locale, et c'est vrai, avait pour slogan un mojito, une plage, un vaccin.
Alors qu'en est-il des vaccins russes et chinois? Moi, j'ai un petit fait pour le Spoutnik.
Il paraît, c'est ce qui se dit. Mi-février, Pékin faisait livrer 550 000 doses à la Hongrie, qui pour l'instant est toujours le seul pays de l'Union européenne à avoir commandé des vaccins chinois. Le Sinopharm est officiellement toujours en cours de test de phase 3, lui aussi, et n'a même pas encore fait l'objet d'une publication scientifique internationale. Et les résultats de l'ensemble des vaccins chinois, d'ailleurs, est encore en attente officielle. Et surtout, il n'y a toujours pas de demande. D'ailleurs, des Chinois à l'Agence européenne du médicament, instance incontournable pour être diffusée chez les 27 pays de l'Union européenne. Une démarche, par contre, réalisée par la Russie et son Sputnik V, toujours en attente de validation, mais qui évoque déjà des unités de production en Italie, en Espagne, en Allemagne et même en France. On verra bien. En tout cas, le vaccin, on le voit, est aussi un jeu politique.
Sputnik V comme Vladimir, je le rappelle. La France pourrait-elle acheter des vaccins sans passer par l'Union européenne?
C'est ce que font la Hongrie et la Slovaquie avec le vaccin russe. Mais si depuis le début, la France joue collectif, commande de vaccins groupés, elle ne compte pas d'ailleurs varier de sa ligne. Contactée par le Figaro, le ministère des Affaires étrangères parle de solidarité européenne, mais c'est aussi possible de la jouer solo, puisque les politiques sanitaires restent du ressort des États et non de l'Europe. Chaque vaccin, d'ailleurs, est très prouvé par des instances nationales. Est-ce que ça ne sentirait pas un peu le thème de débat pour la présidentielle de 2022, ça, non ?
Ce n'est pas impossible. Merci beaucoup, Jean-Mathieu Pernin.
RTL Matin.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
En ce moment et jusqu'à samedi prochain se déroulent les 18e journées de la schizophrénie. Qu'est-ce qui se cache en réalité derrière ce mot valise, utilisé à tout bout de champ d'ailleurs, et parfois sans discernement aucun?
Oui, on parle souvent d'une personne d'humeur changeante ou imprévisible en disant « Ah oui, celui-là, il est schizo », sans savoir exactement ce que cette notion recouvre sur le plan médical. Et ces journées de la schizophrénie sont l'occasion de rappeler qu'il faut se garder d'évoquer cette maladie de manière lapidaire, ne serait-ce que par respect pour ceux qui en souffrent réellement. La schizophrénie étant une maladie du cerveau qui peut être invalidante, pénible pour celui qui en souffre, pénible pour son entourage, mais une maladie qu'il est possible de traiter.
Alors déjà, commençons par le début. Comment se manifeste la maladie?
Alors par des délires, des hallucinations, parfois les deux, c'est parfois épisodique, mais pas toujours. Le malade a un problème de perception de la réalité. Il peut entendre des voix, estimer que tout le monde lui en veut, faire preuve de mégalomanie, tenir des propos incohérents. Le malade a aussi tendance à se mettre en retrait socialement et à faire montre de difficultés cognitives, l'un nourrissant l'autre, ce qui l'installe dans un cercle vicieux qui peut mener à la dépression. Si j'en crois l'INSERM, tout ça concerne quand même quelques 600 000 personnes France. 600 000 personnes, dont la moitié feront une tentative de suicide et 10% parviendront à leur fin.
Existe-t-il des facteurs de risque?
Alors la consommation régulière de cannabis aggrave les choses. Le rôle du stress est aussi établi par la recherche. Il est aussi question de facteurs environnementaux et pour une faible part de génétique. Mais sur ce dernier point, il faut fortement modérer le propos. Parce que si vous prenez des jumeaux, quand l'un est schizophrène, le second n'a que 40% de risque d'être aussi atteint.
On a bien compris que la maladie est difficile à diagnostiquer à temps, c'est ça?
Bah oui, parce que ses symptômes ressemblent à ceux de la dépression ou de la bipolarité.
Mais à quoi faut-il être plus particulièrement attentif, surtout quand on est en présence d'un adolescent?
Alors, il faut garder un œil sur son comportement. S'il se modifie, s'il interrompt ses activités habituelles, s'il a tendance à s'isoler, s'il semble animé de préoccupations mystiques, si ses résultats scolaires en pâtissent, tout ça peut constituer des indices, mais j'ai conscience que le champ est vaste et compliqué à évaluer. Il n'empêche, il faut savoir qu'il existe des traitements, mais pour qu'ils soient efficaces, il est indispensable que l'engagement du patient soit total et souvent que les proches, eux aussi, y adhèrent et soutiennent le processus.
Voilà, 18e journée de la schizophrénie. Merci Michel, à demain.
À demain.
RTL. Toujours avec vous. RTL Matin.
Il est 8h21. François Villeroy de Gallo, bonjour.
Bonjour Yves Calvi.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin sur RTL. Vous êtes gouverneur de la Banque de France. Vous venez de publier des prévisions de croissance extrêmement optimistes pour l'économie française en 2021, plus 5,5%. C'est plus que ce que vous aviez prévu en décembre dernier. Quelles sont les raisons objectives de cet optimisme?
Alors je me méfie toujours du mot optimisme. Nous disons objectivement, effectivement, ce que nous croyons pour l'économie française en 2021. Ce sont d'ailleurs des prévisions totalement indépendantes du gouvernement, qui est lui-même un peu au-dessus de ce chiffre. Et au fond, par rapport à décembre dernier, nous avons une confirmation, puis nous avons une bonne nouvelle. La confirmation, c'est qu'après l'année 2020, qui a été très difficile, avec une récession de 8%, la pire depuis la dernière guerre, l'économie française devrait connaître en 2021 un fort rebond. Donc nous disons plus 5,5%. Il reste bien sûr beaucoup d'incertitudes, de variations entre secteurs, on va en parler, mais plus 5,5%, ça serait la plus forte croissance depuis 1973. Vous voyez, depuis près de 50 ans, et le premier choc pétrolier.
Ce serait un événement historique, par définition.
Ça serait historique, mais la récession de 2020 elle aussi historique, malheureusement. Ça serait une des croissances la plus forte d'Europe, je crois que c'est important aussi de le dire, parce que la moyenne européenne serait à plus 4%.
Tous les secteurs sont concernés?
Alors, il y a des grandes variations entre secteurs. En gros, nous avons appris à travailler et à nous protéger en même temps dans l'industrie et dans le bâtiment. La plupart des secteurs industriels sont revenus à la normale, sauf l'aéronautique, qui continue à souffrir durablement. La principale difficulté est dans le secteur des services, et notamment des services à la personne. Bien sûr, l'hébergement, restauration, tout ce qui est lié au tourisme, tout ce qui est lié à l'événementiel et la culture. Là, il reste des grandes difficultés sur les restrictions. Je précise d'ailleurs, Yves Calvi, que notre prévision est assez prudente, en ce sens que nous avons prévu que les restrictions actuelles resterait en moyenne à peu près jusqu'à la moitié de l'année.
Où placez-vous le commerce de détail dans cette situation générale que vous nous décrivez et qui honnêtement fait ce matin du bien au moral, hein.
Oui, je ne le dis pas pour faire du bien au moral. Je crois que
ce sont des critères objectifs qui sont
compris à votre micro et je vous en remercie. On est toujours venu donner les chiffres tels que nous les prévoyons, et les prévisions de la Banque de France se sont, je le dis au passage, avérées assez justes tout le brouillard économique des derniers mois.
Alors, sur le
commerce de détail, nous publions aussi ce matin les chiffres du mois de février. Et là, les ventes sont stables en février par rapport à janvier, alors même qu'il y a eu, souvenez-vous, le couvre-feu à 18h, les restrictions locales, etc. Donc là aussi, c'est plutôt une bonne résistance, mais avec des grandes variations sectorielles. C'est intéressant pour ceux et celles qui nous écoutent. Les produits vedettes, là, en février ou de la période actuelle, c'est tout ce qui est lié à la maison. Le bricolage, les appareils électroménagers ou électroniques. En sens inverse, ce qui souffre aujourd'hui plus, c'est l'habillement ou l'automobile, dans notre consommation à nous, Français.
Croissance à deux chiffres dans le commerce de détail ?
Non, c'est une stabilité par rapport à janvier. Et si je regarde par rapport à l'année précédente, nous sommes toujours en recul, à -3,5. On retrouve toujours à peu près ces ordres de grandeur. Quand on apprécie par rapport au niveau d'activité pré-Covid, on est entre -4, -5.
Je reste sur la photographie, François Villeroy de Gallo. Qu'est-ce qui porte cette croissance française de façon générale ?
Alors, c'est un rebond par rapport à un point bas. Et c'est, au fond, si je dois décrire d'une phrase ce qui se passe, on passe progressivement de dispositifs de soutien public massifs en 2020, qui ont été nécessaires, qui ont été efficaces, à la confiance privée. Et la confiance privée, c'est notre confiance à nous, consommateurs. Dès qu'on lève un peu les restrictions, les Français ont retrouvé le chemin du commerce et du soutien à l'activité. On l'a vu l'été dernier, on l'a vu en décembre, on le verra cette année. Et puis la confiance des entrepreneurs, il y a plutôt une bonne résistance de l'emploi, et je vais en parler à propos de la bonne nouvelle que je citais, et une bonne résistance de l'investissement. Si vous me permettez de dire tout de suite un mot de l'emploi, parce que ça, c'est très vraiment important. Une bonne nouvelle.
Et j'allais vous demander, est-ce que le chômage va baisser en fait ?
Alors, le chômage ne va pas baisser tout de suite, mais on a eu des bonnes nouvelles sur l'emploi à la fin de l'année 2020, et là, je crois que ça montre le succès du dispositif de chômage partiel. Il y a eu beaucoup moins de pertes d'emploi que prévu, parce que les entreprises, grâce au dispositif de chômage partiel, ont gardé leurs salariés. Dans la plupart des cas, malheureusement pas dans tous. Par contre, elles se sont ajustées sur le nombre d'heures travaillées par salarié pour tenir compte du recul de l'activité. Donc si on résume ce qui s'est passé en 2020, les aides, les PGE, le Fonds de solidarité ont permis de maintenir à flot la plupart des entreprises, et le chômage partiel a permis de son côté de maintenir le lien entre les entreprises et les salariés. Donc un dispositif efficace qui va nous permettre de rebondir maintenant avec cette confiance privée.
Il me vient une bouffée d'angoisse en vous écoutant. Alors oui à tout ce que vous venez de nous dire, si on ne reconfine pas. Et ensuite, que va-t-il se passer quand toutes ces aides vont disparaître ?
Alors, il y a d'abord une sensibilité aux restrictions sanitaires. Pour répondre à la première partie de votre question, nous avons de ce point de vue une prévision relativement prudente, puisque, je le disais, nous maintenons les restrictions. Enfin, nous supposons que les restrictions sont maintenues au niveau actuel jusqu'au mois de juin. On aura peut-être aussi des bonnes surprises, mais il reste beaucoup d'incertitudes. Une fois que ces restrictions sanitaires sont progressivement levées, il faudra que ces dispositifs publics soient progressivement réduits et que le relais soit pris par la confiance privée, à commencer par notre confiance à nous, consommateurs. Les Français, dans cette crise, ont accumulé beaucoup d'épargne.
Alors, c'est la question logique qui venait, et vous l'annoncez, celle de l'épargne des Français. Que faire de leur épargne et que dire à ceux qui ne veulent pas y toucher ? Et ils sont visiblement assez nombreux.
Alors, d'abord, pour situer les chiffres, cela fait partie de nos prévisions ce matin, l'épargne supplémentaire Covid, par rapport à ce qu'aurait été l'épargne normale en l'absence de pandémie, elle est, pour l'année 2020, de 110 milliards d'euros. Ça paraît peut-être un peu abstrait, mais ça fait un peu plus de 4% de croissance. C'est une assez grosse réserve pour l'avenir. Et nous estimons qu'en 2021, on ajoutera à peu près la moitié, environ 55 milliards. Donc au total, un peu plus de 160 milliards. Cette épargne, elle sert déjà au soutien de l'économie, c'est important de le dire. Comment ? Elle est sur des dépôts bancaires ou sur le livret A qui finance les crédits à l'économie ou le logement social pour le livret A. Elle sera à l'avenir, au fur et à mesure du retour de la confiance, transformée en consommation. Et ça, c'est le premier soutien de l'activité. Pour le reste, si cette épargne devait durer, Je crois qu'il serait souhaitable qu'elle soit de plus en plus investie à long terme et du côté des fonds propres des entreprises et des actions. C'est à la fois ce qui est le plus efficace pour notre compétitivité française et notre croissance future. Ça aide les entreprises à investir et c'est ce qui rapporte le plus dans la durée pour les épargnants.
Comment donner confiance aux Français pour qu'ils investissent dans leurs entreprises? Alors, ce pays qui est le pays de l'écureuil et des noisettes qu'on met petit à petit au fond de son coffre.
Alors, l'épargne à court terme aujourd'hui, hein, les dépôts et le livret A, sert effectivement à l'économie. Sur cette confiance dans l'épargne de long terme, je crois aussi qu'il faut offrir des produits correspondants, c'est l'épargne retraite, c'est ce qu'on appelle euro-croissance du côté de l'assurance vie, c'est un certain nombre de dispositifs de la loi Pacte. Après, c'est une transformation qui prend du temps. C'est un défi d'ailleurs qui n'est pas seulement pour la France, oui, qui est pour nos divers voisins européens. Quand nous nous comparons aux Américains, les épargnants américains ont beaucoup plus confiance dans l'avenir et dans leur propre capacité de création, d'investissement, d'innovation. C'est un des points que je souligne dans le livre que je viens de publier. Nous manquons collectivement, nous Européens, un peu de confiance dans l'avenir.
Livre intitulé « Retrouver confiance en l'économie » chez Odile Jacob. Monsieur le gouverneur de la Banque de France, c'est la fête à la Bourse de Paris en ce moment. Vendredi dernier, on passait le cap des 6000 points. Qu'en pensez-vous ?
Alors, je n'ai pas apprécié quel est le bon et le mauvais niveau de la Bourse. Elle a été, depuis la crise, extrêmement sensible aux nouvelles sanitaires. Oui. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup baissé au printemps dernier, et puis elle a remonté, si vous vous souvenez, à partir de l'automne dernier, et de l'arrivée des vaccins. Et ça, je crois que ça correspond à un point de vérité, qui est que la clé de ce rebond économique réussi, c'est le fait que les vaccinations aillent au terme. Il y aura des hauts et des bas, Yves Calvi, on est au fond dans une étape de faux plat dans l'année devant nous, c'est-à-dire que notre prévision repose sur une remontée en pente lente. On a connu depuis un an une étape de montagne avec des descentes vertigineuses, des belles remontées. Là, on n'est plus sur un faux plat. L'arrivée au terme de l'étape, elle est déterminée par le rythme des vaccinations. Alors, dans notre prévision actuelle, nous voyons un retour au niveau pré-Covid. Oui. Au printemps de l'année prochaine, au printemps 2022, c'est un peu mieux que ce que nous voyons en décembre dernier, où on le prévoyait à l'été 2022. Mais voilà, nous avons devant nous une année de faux plat, de remontée en pente lente, sans doute moins accidentée que ce que nous avons vécu depuis un an, cette étape de montagne, mais qui reste une étape exigeante.
Alors je connais certains cyclistes de l'élection présidentielle qui seront ravis de savoir qu'au printemps 2022, éventuellement, les nouvelles puissent être bonnes. J'ai une toute dernière...
Alors je l'ai dit, la Banque de France est indépendante oui, 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 de toutes les joutes politiques.
Vous faites bien de le rappeler, mais en ce qui me concerne, je n'avais pas de doute, avant de nous séparer, retrouver confiance en l'économie, le titre de votre livre qui paraît chez Odile Jacob, c'est un credo ou c'est d'ores et déjà, au moment où nous parlons pour l'économie française, une réalité?
Je crois que c'est à la fois un impératif et une possibilité, voire une réalité. Et ça va jouer deux fois, si vous me le permettez. Ça va jouer tout de suite ce relais du soutien public massif de 2020 par la confiance privée, celle des consommateurs, oui, et des entrepreneurs dans les mois qui viennent. Et puis ça doit jouer plus durablement, parce qu'au fond, c'est cela qui nous manque par rapport aux Américains, d'être prêts à prendre plus de risques, à innover. Il y a, vous savez, deux grands économistes européens du XXe siècle. Il y a Keynes, qu'on connaît en général, l'économiste du soutien et de la solidarité, oui, et il était nécessaire. Et puis il y en a un qui est moins connu, qui est un Autrichien, qui s'appelle Schumpeter. Lui, c'est l'économiste de l'innovation. Schumpeter, il a émigré aux États-Unis dans sa vie. Eh bien, nous, Européens, il faut que nous arrivions à réconcilier davantage Keynes et Schumpeter, si nous voulons, dans la bataille mondiale, la bataille économique avec les États-Unis et la Chine, tenir notre rang, tenir notre place. On peut y croire.
Autrement dit, passer de quoi qu'il en coûte à ce que vous appelez ce matin sur l'antenne d'RTL, la confiance privée. Merci beaucoup François Villeroy de Gallo. Je rappelle la publication par ailleurs, en dehors de ces prévisions, de votre livre chez Odile Jacob, Retrouver confiance en l'économie. Bonne journée à vous, bon travail.
Merci.
Dans un instant, la météo à 7 jours avec Louis Baudin.
Dans RTL Matin, dès 9h, laissez-vous tenter.
Bonjour, c'est Stéphane Boutsock. On connaît depuis hier les nominations des Oscars 2021. L'auteur français Florian Zeller est cité à 6 reprises pour son premier film, The Father, l'adaptation de sa pièce de théâtre Le Fils,
joué dans le monde entier. Comment vit-il cette reconnaissance hollywoodienne? Comment a-t-il convaincu Anthony Hopkins et Olivia Colman de jouer dans son film? Comment se prépare-t-il à la cérémonie du 25 avril? Les réponses de Florian Zeller ce matin à 9h dans Laissez-vous tenter.
RTL Matin.
8h35, la météo à 7 jours. Je voulais jingle double, moi aussi. Comme l'heure de foie. Alors, dans la météo à 7 jours, l'humidité domine, mais peut-être des éclaircies à venir. Je vous laisse évoquer.
Exactement. Et oui.
Tout cela, cher Louis Baudin.
Et tout ça dans le bon sens, avec effectivement cette humidité aujourd'hui, on l'a dit, dans la plupart des régions. Voilà, on passe vite avec quelques éclaircies près de la Méditerranée et sur la Bretagne. Mais ailleurs, donc, de l'humidité, de la neige en montagne, toujours oui. Risque d'avalanche dans les Alpes, les températures. Plus de saison, hein, ça commence à être en dessous des moyennes de saison. Demain, alors, ça va un peu mieux dans la moitié ouest, où temporairement on aura un temps plus sec et plus ensoleillé. Dans l'est, encore des nuages et des averses sous forme de pluie ou de neige à basse altitude, du vent et du soleil près de la Méditerranée. Les températures baisseront encore. On aura du mal à atteindre les 10 degrés, cette fois-ci dans la moitié nord, un petit peu plus dans le sud. Jeudi, journée exécrable, avec de nouveau des nuages et de la neige peut-être jusqu'en plaine, dites-nous, le matin.
Dans les régions très du nord-est.
Oui, oui, en tout cas de la neige à basse altitude sur toute la moitié est de la France, donc il fera de plus en plus froid, les températures auront du mal à dépasser les 7-8 degrés dans la moitié nord et notamment dans le nord-est, un peu plus de 10 degrés dans le sud. Vendredi, il restera encore les effets de cette perturbation avec un peu de neige à basse altitude dans l'est, mais globalement on retrouvera un temps plus sec et ça annonce ce week-end, ça tombe bien, où là on aura du temps sec, plus froid, attention, hein, dégelé le matin, des températures de 7, 8, 9 degrés l'après-midi.
Un beau temps frais avec un, soleil, voilà, un ciel dégagé, c'est très agréable.
La belle journée hivernale, voilà, où il fait froid le matin, mais on a une belle lumière toute la journée. Donc ça, c'est le week-end prochain. Puis ça pourrait même durer un peu en début de semaine prochaine. C'est-à-dire que l'anticyclone revient, il bloque l'air froid, mais il nous donne du temps sec, avec donc de belles lumières.
Puisque je vous tiens, excusez-moi, mais dans le ciel de Pékin, on a vu une drôle de tempête de sable.
Oui, extraordinaire, hein, un peu comme dans les films, là, avec cette tempête de sable qui est arrivée sur Pékin.
Ça doit être très impressionnant. Hein.
C'est exactement le même principe que ce que l'on a connu, nous, quand le sable est remonté d'Afrique, sauf que là, ça ne traverse pas la Méditerranée. Donc ce vent de sable qui arrive du désert de Gobi, ne traverse pas la mer, donc traverse tout simplement les terres et arrive avec la même intensité sur Pékin. Voilà, pour nous donne ces images spectaculaires d'un nuage de sable qui vient et qui frotte sur toute la ville de Pékin, sur une hauteur de 200 ou 300 mètres
et
à peu près.
Ils ont déclenché un plan qui s'appelle le plan jaune. Enfin, c'est tout ça est très sérieux.
Oui, parce
hein.
que ça empêche de respirer correctement, ça amplifie la pollution sur Pékin et ça réduit évidemment la visibilité pendant quelques heures, voire quelques jours, parce que sur Pékin, ça met beaucoup de temps à se dissiper.
Merci beaucoup pour ce point très complet, Louis Baudin.
RTL, vous êtes comme ça.
Et ce matin, écoutez bien ce que nous allons vous raconter. Avoir un orchestre à portée de main quand on est musicien, c'est un rêve désormais possible grâce à une application à télécharger sur son téléphone ou sur sa tablette. Bonjour Agnès Bonfillon.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Nomad Play, c'est son nom, est une petite révolution dans la musique classique. L'application a d'ailleurs déjà été récompensée plusieurs fois, notamment avec le prix Business with Attitude 2020, organisé par Madame Figaro et dont RTL est partenaire.
Et je vais retirer le violon solo. Clotilde Chalot est l'une des deux créatrices. La jeune femme de 40 ans est aussi PDG de la start-up. Avoir fait beaucoup de piano est forcément un atout. L'athlétisme également. En tant qu'entrepreneuse, mieux vaut tenir la distance, ne pas se faire doubler. Surtout quand on développe un algorithme aussi ingénieux.
Nomad Play permet à tous les musiciens, quel que soit leur niveau, de pouvoir répéter n'importe où. C'est-à-dire qu'avec Nomad Play, vous avez accès à une bibliothèque d'œuvres, spécifiquement de beaucoup de musique classique et du jazz. Vous choisissez votre morceau et vous enlevez l'instrument de votre choix, donc généralement celui que vous jouez. Vous avez également la partition, vous avez des options comme l'annotation de la partition. Donc ça permet vraiment de pouvoir répéter tranquillement chez soi.
Un petit peu comme je pourrais faire du karaoké.
Effectivement, ça pourrait être qualifié de karaoké de la musique classique, tout en sachant que là, spécifiquement, on a du vrai son avec des vrais artistes qui sont d'ailleurs rémunérés en fonction de l'écoute et de la pratique qui est faite de leur musique spécifiquement.
Comme pour une plateforme de streaming, il suffit de s'abonner pour 9,99€ par mois, un catalogue avec déjà plus de 2000 morceaux, un outil pratique, ludique et surtout pédagogique. Mais alors pourquoi personne n'y a pensé avant ? Ce n'est pas exactement le cas.
Il y avait une méthode qui s'appelait Minus One dans les années 80, où en fait des enregistrements étaient fournis aux élèves d'école ou de conservatoire. Il y avait un orchestre qui jouait sans soliste. Et là, vous pouvez uniquement, du coup, remplacer le soliste qui était généralement un violoniste, pianiste ou trompettiste. Avec Nomad Play, vous pouvez supprimer n'importe quel musicien de la bande parce qu'en fait, on a développé une technologie qui permet de supprimer un son d'un enregistrement, ce qui est beaucoup plus flexible et ouvert à tous.
Bartou, lui, est élève au Conservatoire National de Paris à 17 ans à peine. Il est déjà un génie du violon. Nomad Play, il l'a découvert un peu par hasard au mois de mars dernier.
Et j'ai fait plusieurs activités pendant le premier confinement et j'ai fait des concerts pour des EHPAD en ligne. Et c'est ce qui m'a permis de découvrir Nomad Play parce que j'avais besoin d'accompagnement pendant que je jouais. Et ce qui est génial avec cette application, c'est que ce sont des musiciens de très haut niveau qui jouent et c'est juste une très belle expérience.
Bartou s'entraîne 4 heures par jour minimum chez lui. Désormais, Nomad Play l'accompagne régulièrement. Ça lui permet d'être soliste dans son salon.
Merci beaucoup Agnès Bonfillon pour ce reportage sur Nomad Play à retrouver sur notre appli à nous, celle d'RTL. J'en profite pour vous rappeler que dans une vingtaine de minutes, nous allons retrouver Renaud Capuçon, le violoniste, pour sa toute première chronique dans Laissez-vous tenter.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Ah, c'est ce qu'on appelle un enchaînement. Il est 8h41. Ce matin, on s'intéresse à un scandale bien caché dans les coulisses du Brexit. Les leaky, comment on prononce loose ?
Leaky loose.
Expliquez-nous ça, chère Isabelle Choquet.
Oui, on connaît les WikiLeaks, les Lux, Leaks. Les leaks, ce sont les fuites en anglais, ces informations que certains aimeraient bien cacher, mais qui finissent toujours par sortir.
Ben voilà.
En l'occurrence, les leaky loose, littéralement, les toilettes qui fuient, ce sont des révélations de la BBC 4. Alors attention, tenez-vous bien, c'est du lourd. Les chasses d'eau conçues pour économiser l'eau gaspilleraient plus qu'elles n'économisent.
Oula.
Shocking, j'ai lu ça dans Flush, magazine culotté consacré à toutes ces petites choses intimes dont on ne parle jamais. Ces toilettes économes, dans le jargon, on les appelle toilettes à double volume. Un petit bouton pour la petite commission, un plus gros pour ce que les Anglais appellent pudiquement number two.
Oh,
d'un
charming.
D'un côté, 6 litres d'eau potable pour évacuer les gros solides et de l'autre, moitié moins pour les petits liquides. Cette invention révolutionnaire est apparue à la fin des années 90. Depuis, elle règne sur toute l'Europe, on le voit bien. Et en 2002, elle a traversé la Manche où elle est devenue la norme dans toutes les nouvelles installations britanniques.
Qui, Dieu sait, n'était pas d'une formidable modernité.
Vous allez voir ça, effectivement. Un produit révolutionnaire, ces toilettes. Mais traître, selon Thames Water, la société chargée de la gestion de l'eau dans l'agglomération de Londres. Chaque jour, figurez-vous, 400 millions de litres d'eau s'échappent des toilettes britanniques, l'équivalent de la consommation de 2 800 000 personnes. Et ça, d'après Thames Water, c'est la faute des toilettes à double volume. Il existe tellement de types de toilettes, dit un responsable, que les gens ne savent plus sur quel bouton appuyer. Souvent, ce qui apparaît comme l'option la plus évidente pour un rinçage court, en fait, ça utilise plus d'eau. 3 personnes sur 4 se mélangeraient ainsi les chasse d'eau. Et Thames Water enfonce le clou. Il y aurait de toute façon un gros problème de conception. Le système à valve de ces toilettes écolo fuirait en permanence. Conclusion appuyée par l'ONG Waterwise, qui en arrive à peu près au même chiffre, entre 215 et 400 litres gaspillés par jour et par WC à cause des rondelles d'étanchéité qui s'useraient trop vite. Ces valves, elles n'existent pas dans le système traditionnel britannique que vous évoquiez. Système à siphon, la chasse d'eau est branchée directement sur la citerne. Autre particularité, contrairement aux chasses d'eau continentales, l'eau ne coule que par gravité. Alors il faut pomper avec un levier. Il fallait pomper avec un levier pour rincer la cuvette. Sur BBC4, le leader britannique du siphon est formel. Un siphon ne fuira pas, alors qu'un système à valve, ça peut prendre 2 ans, mais ça va fuir. En France, c'est la stupéfaction. C'est la première fois qu'on entend parler de ça, dit un fabricant de sanitaire. C'est vrai qu'il faut encore faire des efforts sur le design des boutons, mais des fuites au bout de 6 mois, on n'y croit pas du tout. Ou alors, il y a des gens qui versent du sable dans les chasses d'eau. En fait, le marchand de cuvettes croit savoir d'où vient cette soudaine offensive contre les toilettes à double volume. On est en plein Brexit, dit-il. Comme par hasard, le produit mis en avant, c'est le siphon, produit spécifique dédié à l'Angleterre. C'est un système massif, très compliqué à actionner. Il y avait beaucoup de problèmes, notamment pour les enfants qui n'arrivaient jamais à le faire fonctionner. Bon, il a ses qualités en termes de fuite, mais si le dispositif était imposé demain au Royaume-Uni, il faudrait recréer des moules pour produire les réservoirs adaptés. Presque plus aucun céramiste n'en a. Donc, D'après ce monsieur, derrière tout ça, il y a surtout un gros lobbying du gouvernement et des industriels britanniques pour rétablir un certain protectionnisme et favoriser un système qui n'existe nulle part ailleurs. Bref, c'est le Brexit jusqu'aux toilettes. Yves Liquilous, c'est un article que j'ai repéré dans le magazine Flush.
Et bien voilà, un Brexit de plus. Merci beaucoup Isabelle Choquet. À demain matin.
À demain.
Et dans un instant, nous retrouvons Laurent Gérard.
7h-9h30, RTL Matin, Yves Calvi.
En présence de Renaud Capuçon, qui fait son entrée aujourd'hui dans l'équipe de Laissez-vous tenter, que nous retrouverons dès 9h avec toute notre équipe chérie. Voilà, ce petit rire me fait du bien. Je dis bonjour.
Plaisir d'accueillir Renaud.
Voilà. Bonjour. Bienvenue. Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Et bonjour Monsieur Calvi. Bonjour à tous. Une liste de personnalités représentatives de la diversité française vient d'être dévoilée à l'initiative du président de la République afin de fournir de nouveaux noms de lieux publics. Il fallait s'y attendre. Cette liste a suscité de nombreuses réactions. On fait le point à l'Élysée chez les époux Macron. Ah.
Hey, t'as vu ça, Brigitte ? J'ai tenu ma promesse de sortir une liste de héros de la diversité pour donner de nouveaux noms à des lieux publics.
C'est une très bonne idée, Emmanuel. Je crois qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Aimé Césaire et Dalida, François Giroud et le clown chocolat, Marie Curie et Luis Mariano, Annie Cordy et Amadou Mbarek Fall alias Batlin Siki. Mais oui, Brigitte, c'est ça la diversité. Et c'est mon idée. Ah tiens, le téléphone, il y avait longtemps. QG de Macron 2022, j'écoute.
Allô ? Allô, l'Élysée ? C'est Enrico Macias à l'appareil. Vous me remettez, c'est moi le chanteur oriental, le brun au regard fatal, laï.
Bien sûr que je vous remets, Enrico. Que puis-je faire pour vous ?
5 sur vous, Madame Brigitte. C'est au sujet de la liste que le président Anou, il a publiée avec les noms des personnalités qui doivent donner leur nom à des lieux publics. Poi, ma parole. La liste des héros au président, je l'ai lue et je l'ai relue avec mes haflelots. Il manque des noms importants dans la diversité, la mort de mes os.
Ah bon ? Mais qui ça, par exemple ?
Il manque les gens qui ont les pieds de la diversité, les pieds noirs. Robert Castel et Lucette Sahuquet.
Ah oui ?
Ou Roger Hanin, par exemple. Ils y sont pas. C'est un malheur. Il n'y a même pas non plus mon tonton Abdel, alors... qu'il a reçu le prix Nobel Wed pour ses inventions révolutionnaires, hein, du ballet Bissell, tout ça.
Tout ou, Mémé, ah
oui, c'est vrai. Ou Mémé Malika, qui a été sacrée la reine du tagine de pigeon. Alors, s'il vous plaît, vraiment, je vous le demande, s'il vous plaît, Madame Macron, essayez de parler au président Anou pour qu'il donne au moins le nom de Tata Jamila à une clinique dentaire. Quand elle s'en ira manger les pois chiches par la racine. Elle s'en est tellement vue avec sa dent en or qu'elle mérite bien un petit geste de diversité.
Promis, je lui en parlerai. Au revoir, Enrico. Allez, ça continue. Madame la présidente, j'écoute.
Oh, allô ? C'est l'Elysée, là ? C'est Corinne Maziero, capitaine Marlowe, pareil.
Toujours délicat.
Tu vois qui je suis ou quoi, monsieur ?
Oui, malheureusement, je vois bien qui vous êtes. Mais... que puis-je faire pour vous être utile ?
Bah, c'est la liste de la diversité, là. Il y a pas les chanteuses et les actrices ménopausées. Anne Sylvestre, Juliette Bréco, Gréco, déshabillez-moi, tout le monde à poil.
C'est ça. J'en parlerai à Marina Foisse. Et la prochaine fois que vous essayez d'écrire en français, je vous conseille d'apprendre la conjugaison des verbes à tous les modes, hein, et à tous les temps.
Oh là, la grammaire, c'est réac, hein. Et puis d'abord, moi non plus, j'y suis même pas dans la liste, alors que moi, je suis populaire.
Ah, désolé, Corinne Maziero, mais pour être dans la liste, il faut être mort, oui. Mort comme le cinéma français, à cause de gens comme vous.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est pas possible, ça sonne encore. Ça doit être Lynn Renault. On avait rendez-vous pour notre gym sur Zoom. Première dame de France, j'écoute.
Bonjour, bonjour, c'est Dev. Le chanteur batave qui n'aime pas que les oignons de tulipe. Dites, Madame Bozette, il faut dire au président qu'elle n'est pas magnifique, cette liste de diversité. Il n'y a pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Même pas des homosexuels assumés du showbiz dedans. Il n'y a pas Zassazo, là c'est extraordinaire. Jean-Marie Brolier, non, mais... Pascal Sévran et Missou avec ses lunettes bleues.
Ils sont tous morts.
Oui, mais oui, ils méritent bien un salon de coiffure à leur nom, non? Et Jean-Claude Brialy, exceptionnel. Patrice Hirot, très chiant, mais il était de la zaquette aussi. Et Eric Morena, vous ne le trouvez pas beau, Jean Bateau ?
Oui, on va y réfléchir, hein, merci. Et au revoir, Dev.
Au revoir, Brigitte. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de carrière en 2022.
Et ça continue. Brigitte Macron, j'écoute.
Allô, la maison des secrets ?
Oh non.
Ici Benjamin Castaldi, l'animateur biographe qui écrit ses livres à la perche à selfie. Hein, que puis-je pour vous, monsieur Castaldi? C'est au sujet de la liste pour la biodiversité. Vous avez oublié les gros qui n'ont pas eu la chance de connaître mon partenaire, ma sœur, comme j'aime. Ils sont importants, les gros, pour la biodiversité. Carlos, Demis Roussos, Raymond DeVos, Richard Anthony, Raymond Barre, et ma mamie Cocu. Ma mamie Cocu, elle a beaucoup grossi, ma mamie Cocu, quand elle a su qu'elle était cocu. Ah oui, mais elle a déjà des squares et des écoles à son nom, votre mamie. Allez, au revoir, monsieur Castaldi, mais c'est pas possible. Je l'aurais parié. Allô, Madame Brigitte, c'est Casimir de l'île aux enfants à l'appareil. Dites, Madame Brigitte, nous, les héros pour les enfants, on n'est pas très contents de votre liste pour la diversité. Vous n'avez pas mis Saturnal Canard?
Non.
Ni l'ours Colargol, ni Pollux, ni Kirin le clown, ni tous les monstres gentils. Pourtant, ça c'est joli, une place Brock et Schnock à Paris. Et puis surtout, vous avez oublié Nounours, Pimprenelle et Nicolas. Pourtant, Pimprenelle et Nicolas, oh, c'était un modèle pour tous les enfants français. Ils jouaient pas à la tablette en écoutant du rap et ils allaient se coucher à 18h.
Oui, très bien, c'est noté, Casimir. J'en parlerai au président. En fait, c'est pas possible. Allô, Brigitte Macron, Michel Drucker à l'appareil. Enfin, coup de fil sympathique. Alors, vous vous retapez bien, Michel. Convalescence extraordinaire, corps médical formidable. Dites, Brigitte, la liste pour la diversité. Oh non, si. Vous avez oublié les chiens? Magnifique, les chiens. Ma chienne Zaza, 80 000 heures d'antenne. Mabrouk, 30 millions d'amis. Baltique, le laboratoire du président Mitterrand. Gros-Blanc, Bill le coquillard de boule. Idée fixe, rente en plan. Milou, Milou de Tintin, Belle et Sébastien. Oh.
Lyon devient la première ville en France à adopter un budget genré. Il s'agit d'évaluer toutes les lignes budgétaires pour voir si elles bénéficient autant aux hommes qu'aux femmes.
Bonjour, monsieur Jade, et bonjour, mademoiselle Calvi.
Bonjour, Gérard Collomb.
Bonjour, monsieur.
C'est plutôt l'inverse, c'est mademoiselle Jade et monsieur Calvi, en dernière nouvelle.
Oui, mais en ce moment, avec ces histoires de théorie du genre, on est tout chamboulé.
Bon, d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites en robe, vous?
Ça vous plaît?
Ça surprend.
C'est une petite cotonnade que j'ai trouvée en solde. Mm-hmm. Je prends mes précautions par rapport au budget genré de mon remplaçant à la mairie de Lyon, Grégory Maboul.
Ah non, c'est Grégory Doucet.
Et puis.
Oui, c'est pareil. Ah. Je m'habille en bonne femme, comme ça j'aurai des subventions.
Mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'égalité. La maire adjointe en charge des droits et des égalités remarque par exemple que les cours d'école sont goudronnés pour permettre aux petits garçons de jouer au ballon, reléguant les petites filles sur le côté.
Ah oui, naïvement je croyais que l'égalité c'était justement de permettre aux petites filles de jouer au foot si elles en avaient envie, comme à Lyon, mais j'ai dû me tromper.
Bon, de toute façon la mairie a réglé le problème puisqu'au lieu du foot, elle va mettre en place des ateliers de jardinage.
Ça c'est une bonne idée, vu que Grégory Maboul a interdit la viande dans les cantines scolaires. Les petits vont cultiver eux-mêmes les carottes et les topinambours qu'ils mangeront le midi. Les écolos réinventent le travail des enfants. C'est bien, ça, c'est très progressiste, ouais, ça.
Oui, oui, je vous sens moqueur. Hein.
Non, non, pas du tout. Vous m'excusez, j'ai rendez-vous avec Grégory Maboul. Pour lui plaire, je dois aller me faire un brushing chez Jardiland.
Ah, quel bonheur. Au nom de l'égalité, je dois quand même restaurer quand même ceci et cela. Vous savez, ce sont les deux petits singes là,
ah, oui.
De Pépin la Bulle.
Ah bah, oui, c'est vrai.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà. Ceci, cela. Rapportez-moi les pantoufles.
Ça nous poursuit toute notre vie.
Eh ben, j'aimerais quand même, voilà, que
bah,
vous
oui, rendiez. Bah, oui. Faut appeler l'Élysée, Yves.
Ben voilà. Merci Isabelle. Morini Boss se souvient de Pépin la Bulle.
Ah bah quand même,
bon.
Oui.
Alors vous voulez faire un coucou à Renaud?
Bah oui, je voulais saluer mon ami Renaud Capuçon, nous souhaiter la bienvenue évidemment, et puis on se réjouit qu'il soit avec nous. On était un petit peu au courant, mais voilà.
Merci.
Maintenant c'est fait.
On vous
retrouve. Faut y aller.
Et on vous retrouve dès 9h avec grand plaisir et toute l'équipe de Laissez-vous tenter, cher Renaud Capuçon. Puis je salue aussi notre camarade Charlotte Latour qui attend son bébé. Exactement. Et à qui nous faisons de tendres baisers.
Voilà.
Dans un instant.
Qu'est-ce qu'on mange?
Des légumes.
Moi j'étais perturbé par tous ces changements.
Oui, je vous ai vu là, vous étiez bien en train de rigoler, Yves. J'ai vu, vous l'avez désarçonné.
Bon ben bah,
alors,
suite,
mais quel légume alors?
Quel légume?
Qu'est-ce qu'on mange? Bah alors, qu'est-ce qu'on mange?
Des légumes.
Des légumes.
Ah, et pour faire manger les légumes aux enfants, en galette, un peu épicée.
Vous savez quand les gamins disent beurk les légumes?
Voilà.
Eh bien, ce matin, Cyril Lignac y apporte une réponse.
Une petite galette comme ça. Les légumes. Avec de la crème, bien gourmande.
Allez, à tout de suite. On est en train. Après, on va être en retard.
RTL Matin, Yves Calvi.
Pour faire manger des légumes à mon fils, j'aimerais faire des galettes de légumes. Quels légumes choisir? Comment cuire mes galettes? Et quelle épice ajouter pour ne pas entendre le redouté beurk les légumes? C'est Aurélie qui vous pose la question.
Alors, les épices, c'est toujours un peu compliqué pour les enfants.
Vous avez raison.
Sauf si on met un peu de vanille, mais ça apporte un petit peu de sucre. Ce qui est mieux, c'est quand même de faire une galette. Alors, à base de pommes de terre que l'on coupe avec des carottes, on cuit les pommes de terre dans de l'eau, ouais. On cuit les carottes avec, des brocolis, on passe tout ça au presse-purée. Ensuite, on ajoute 40 g de crème liquide, 40 g de farine, 120 g de petits morceaux de fromage coupés en petits dés. Et ensuite, on ajoute un œuf et un jaune, on mélange, on met au frais pour avoir une petite pâte, une poêle à crêpes avec voilà. Un petit peu d'huile d'olive. On fait les galettes et ça marche à tous les coups. Un petit peu de viande hachée à côté. Et pas besoin de bricoler les légumes, juste des petites pommes de terre. Et ça marche très bien.
Mais moi, j'en meurs d'envie de vos galettes.
Et c'est
légumes.
Super bon, j'en mange moins.
Ah bah,
c'est voilà. Même aussi pour les grands. Hein.
Tout est dit et vous retrouverez l'intégralité de la recette, bien entendu, sur le site RTL.fr. Merci Cyril Lignac, à demain matin.
RTL Matin, Yves Calvi.
L'essentiel de l'info avec Jérôme Florin.
Pas de langue de bois pour Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture invitée de RTL. Elle a jugé navrante la cérémonie des Césars vendredi.
Est-ce que cette cérémonie a été utile au cinéma français? Je crois qu'elle n'a pas été utile au cinéma français. Le côté meeting politique de cette affaire, je pense, a nuit à l'image du cinéma français, alors que le cinéma français est massivement aidé. Dans aucun pays du monde, un État n'aide le cinéma français comme on le fait. 1,2 milliard d'aides en 2020 et nous continuons en 2021. Le cinéma, c'est une industrie. Donc les Césars, c'est une vitrine pour vendre notre cinéma. Est-ce que vous voyez l'image que ça a donnée? C'est navrant de voir des artistes piétiner leur outil de travail.
L'Organisation mondiale de la santé se réunit aujourd'hui pour examiner la sûreté du vaccin AstraZeneca alors que la campagne a été suspendue dans de nombreux pays, dont la France. Emmanuel Macron dit attendre l'avis de l'Agence européenne des médicaments jeudi.
Jérôme